Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Sur parole. Ce podcast s'intitule Sur parole.
Sur parole.
Il est présenté par Gigi Pop.
Sur parole.
L'invité est Babord.
Oui, bienvenue dans un nouvel épisode de Sur Parole, le podcast où l'interview est guidée par une chanson. Aujourd'hui, je reçois un auteur, comédien, réalisateur aussi, évidemment, homme de scène, Twitos, Tredos,
Ixos.
Ixos, on dit ? Ah oui, Ixos,
je sais pas.
J'ai nommé Babord.
Salut Guigui.
Ça va ?
Ouais, ça va super.
Je suis très content de te recevoir, Babord.
C'est adorable.
Eh ben,
je suis trop content
adorable.
Aussi.
Est-ce que tu connais la question rituelle qui commence ce podcast ?
Ça t'arrange que je dise non pour que tu puisses me la poser ?
Oui, comme d'accord.
Non, j'en ai vraiment aucune idée.
Eh ben, c'était tes paroles de chanson préférées au monde.
Au
Et
monde ?
Pourquoi ? Oui.
Alors, c'est pas au monde. J'ai beaucoup réfléchi parce que mes paroles de chanson préférées au monde, ça va être un obscur métal symphonique qui va parler de chevaliers qui tuent des dragons.
Mais c'est pas grave.
Ouais, mais elles se ressemblent toutes. Donc là, je préfère te donner les paroles de chanson préférées du moment.
Ah, très bien.
Alors, je vais te les fredonner. Ça fait... Au palais du roi Bombec, les tours sont en chocolat, les fenêtres en nougatine, les murs en barbe à papa.
Ah.
Mais écoute, c'est une chanson que je fais écouter à mon fils,
oui.
Voilà, qui a 4 mois. Et pour la petite anecdote, c'est introuvable sur Internet, c'est des chansons que j'écoutais moi-même quand j'étais petit.
Ah.
Et Dieu merci, le mec qui chantait ça s'appelle Claude Jardin, il n'est pas mort. J'ai retrouvé son site, c'est un vieux site en mode, tu sais, Wanadu, je sais pas quoi. Je lui ai écrit un mail et il a dit « Ah bah ok, pour 10 euros, je t'envoie mon album ». Donc j'ai réussi à récupérer son album et du coup, je le fais écouter à mon fils. C'est trop bien.
Claude Jardin, il a demandé 10 euros. Vous pouvez pas l'envoyer gratos.
Non, mais bon, moi je soutiens. Alors, s'il y a bien un mec que je soutiens, c'est Claude Jardin. Tu vois. Donc voilà, c'est le roi Bombec qui a un château fait avec que des sucreries. Puis les gens viennent manger son château. C'est un peu l'histoire de cette petite chanson.
C'est peut-être un moment historique qu'on vient de vivre parce que c'est peut-être la première fois dans un podcast français où on parle de Claude Jardin.
Ah oui. Ah, je te confirme, je serais très déçu que ce soit pas le cas.
Eh ben, très bien, bravo. Très bon choix. Écoute, la chanson que j'ai choisie pour toi, elle est simple. Tout le monde la connaît. On l'aime ou on l'aime pas.
La Marseillaise. Ah non, pardon.
Écoute, parce que je me suis dit, t'as quand même réalisé un long métrage qui s'appelle Fatman, je suis pas fou.
Ouais, complètement.
Qui est superbe.
Merci beaucoup. Enfin, c'est pas le titre, c'est Impionçable, et il y a un personnage qui s'appelle Fatman,
voilà.
Et la chanson du... s'appelle Fatman.
Donc le personnage s'appelle Fatman.
Ouais.
Et je sais que t'es un énorme fêtard. Du coup, j'ai choisi pour toi la chanson La Fiesta de Patrick Sébastien.
Eh bah, très bien, on parle là-dessus.
Tu la connais ?
Ouais, j'avais peur de pas connaître, mais ça, je connais La Fiesta.
C'est pour ça qu'il m'a dit au début, j'ai peur parce que les chansons, je suis nul en chanson. Bon, La Fiesta, tu connais.
Je t'ai dit que je vomissais de stress avant le podcast, et
c'est
c'était vrai.
Donc La Fiesta, est-ce que déjà t'aimes bien Patrick Sébastien ?
Ouais, je trouve ça cool. Franchement, un gros respect pour sa carrière. C'est fou de faire de la télé, d'avoir sorti plein de hits et tout. Je me demande combien il se met en SACEM avec ses chansons un peu paillardes.
Ah ouais. Ça va être énorme.
Ouais, je pense que c'est énorme. Mais du coup, je trouve ça trop drôle comme...
Genre déjà, les sardines,
ouais.
Je pense que c'est sa plus grosse SACEM. Qu'est-ce qu'on essaie au fond de cette boîte, etc.
Bah oui, non, je
qui passe, aux enterrements, etc. maintenant. Il y a des gens qui passent, c'est la chanson des enterrements.
J'ai vu passer un article ce matin sur X qui dit que la SACEM veut monétiser les chansons qui sont diffusées aux enterrements.
C'est bien.
Oui, voilà. Mais non, mais voilà, ça m'a fait rire. Je m'étais jamais posé la question.
Petite anecdote, une fois, en parlant de chansons d'enterrement, une fois, j'ai posté un truc sur Tribal King façon sexe,
okay.
Sur Insta en story, et quelqu'un m'a dit cette chanson, elle est particulière puisque quand j'étais en 5e, il y a une meuf de ma classe qui est morte, et ils ont passé cette chanson à l'enterrement parce que c'était sa chanson préf pour l'entrée du cercueil. Et bah, c'est mon anecdote préférée parce
c'est
qu'on
génial.
Peut pas se moquer parce que c'est triste, mais à la fois voir les gens pleurer sur
bah oui,
tout
c'est...
le monde bouge ses fesses, les femmes oublient leurs complexes. Avec les parents qui pleurent et tout. Je trouve ça terrible.
Ah, j'aurais aimé un vlog de cet enterrement.
Voilà, alors écoute, on va commencer par la première parole. La première parole qui est « Aïe ma belle, j'ai bossé toute la semaine comme un tolard.
» Ok.
Alors première question là-dessus. Aïe ma belle, est-ce que tu es douillet ?
Dur à dire. J'ai entendu dans une autre podcast que t'avais demandé à, je crois, c'est Santini, si elle était frileux. Je me suis dit, putain, qu'est-ce que je vais répondre à ça ? Je suis assez modéré dans tout, donc je pense pas être particulièrement douillet. Mais je suis pas non plus... Ah, tu me plantes une aiguille, j'ai mal, hein. Je vais crier.
T'es un casse-cou ou pas ?
Non, je suis pas très casse-cou. Je suis assez peureux. Si ça rentre dans le cadre de douillet, non, j'aime pas faire des trucs à sensation trop forte.
Okay.
Tu vois, il y a une via ferrata près de chez moi, je sais pas si tu vois ce que c'est.
Non, je sais pas ce que c'est.
En gros, c'est un peu comme faire de l'escalade, mais t'es tout le temps attaché, tu vois. Mais, et tu grimpes dans la montagne comme ça, et c'est une voie, c'est ferré, quoi. Il y a des trucs okay, pour s'accrocher. Et ça, bon, bah, même si t'es en 100% en sécurité, parce que t'es tout le temps accroché comme à l'acrobranche, vu que c'est vertigineux, j'ai peur de la faire, tu vois.
Okay.
J'en ai fait une fois, j'avais trop peur. Ah ouais, t'es pas à risque. Voilà. Bon, après, là, c'est le cadre du vertige, mais non, je crois que je suis pas. Ça m'attire pas de faire du skydiving ou du. Non, je crois que la tyrolienne et l'acrobranche, c'est le max.
Ok.
Voilà.
C'est comme moi, j'ai jamais été ce mec, tu sais, où ils disent « Hey, il y a un énorme lac » et on dit « On va jusqu'au rocher là-bas en nageant ». Non.
Non, pas ouais, non. Tout. Sans non, plus. Dès que j'imagine qu'il y a plus de 10 mètres en dessous de moi et que ça devient un peu noir. Et... c'est même pas peur des poissons, c'est plus, je sais pas, l'infini en dessous. Quoi.
Ouais, viens, on risque pas notre vie. Je sais pas,
ouais, voilà,
j'ai un truc comme ça. Bref, ok, très bien. J'ai bossé toute la semaine comme un tolard. Alors la question c'est, quel était ton premier job ?
Ok d'accord, je pensais que t'allais plus aller sur l'axe prison, j'ai eu des procès, j'ai eu une vie de dingue.
T'inquiète. On y va.
mon premier job, attends je réfléchis, on compte pas le stage de 3ème. Non j'ai été factotum dans un hôtel.
Qu'est-ce que
factotum,
c'est ça ?
Factotum c'est un homme à tout faire. En gros je faisais ça l'été, c'est mon beau-père, hein, c'était du piston qui m'avait trouvé ça. Mon beau-père travaillait en station de ski et du coup il connaissait tous les gérants d'hôtel et donc il avait demandé à un gérant d'hôtel s'il pouvait pas me prendre l'été. Et du coup c'était plutôt cool, je travaillais avec l'animateur et du coup on organisait des pétanques, des balades, des trucs comme ça avec les touristes et tout. Des fois j'aidais à dresser la table pour le soir et tout, donc c'était plutôt chill quoi comme, comme premier job.
Et, du coup, ton boss c'était un peu de ton beau-père.
Oui voilà c'est ça, c'était le directeur, il gérait plus, c'était un mec qui gérait plusieurs hôtels et donc moi je travaille là. Après j'ai fait d'autres tafs de merde pour le coup, ça c'était plutôt cool.
J'ai un taf de merde.
J'ai travaillé un taf de merde si tu veux. J'ai travaillé chez Tout Éclat Parquet Sol.
Oh, oui.
C'est l'été, je remplaçais les gardiens d'immeubles qui étaient du coup en vacances. Et du coup j'allais nettoyer quand je voulais mais il fallait que je sorte les poubelles. Donc c'était soit j'y allais deux fois parce qu'il fallait que les immeubles soient propres le matin. Pour quand les gens se lèvent. Donc, pour sortir les poubelles, il fallait que. Donc, soit j'y retourne le soir vers 17h pour sortir les poubelles, soit j'y allais avant que les éboueurs passent. Donc, ce que je faisais, c'est que je me levais à 4h du matin et j'allais nettoyer plus sortir les poubelles à 4h du matin avant que les éboueurs passent. Et du coup, c'était génial, quoi. Et je mettais beaucoup de pchit-pchit pour que ça sente bon, mais j'étais pas très fort pour nettoyer. Wow. Et une fois, je me rappelle, il y a des gens d'un immeuble qui se sont plaints, qui ont dit c'est pas très propre. Et j'y suis allé à 4h du mat et j'ai passé l'aspi en tapant dans les portes comme ça à tous les étages. Et ben, ils m'ont plus jamais fait chier, figure-toi.
Wow.
Voilà, c'était ma petite vengeance personnelle.
Donc, Tout Éclat Parquet Sol, c'est une entreprise de nettoyage d'immeubles.
Ouais, en banlieue de Lyon. Ouais, ils font plein de trucs. Et je me rappelle une autre mission que j'ai dû faire qui était horrible pour eux, j'ai dû nettoyer les aspirateurs industriels. En gros, c'est des gros aspirateurs qui sont hyper puissants, ça aspire même l'eau. Et du coup, ça fait une espèce de magma hyper dense à l'intérieur. On dirait presque du goudron. Et j'ai dû nettoyer l'intérieur des aspirateurs. Genre vraiment, il y avait un an de trucs cumulés hyper compacts à l'intérieur. Wow. J'ai vraiment cru que j'allais mourir. T'sais, j'avais même pas de masque pour me protéger. J'enlevais cette espèce de goudron. J'ai même pas réussi à faire tous les aspirateurs en une après-midi.
Et, bon. quand t'es en train de faire ça, tu te dis... j'imagine que c'est affreux, mais tu te dis... T'as quoi comme ambition à ce moment-là ?
Moi, je voulais juste travailler un mois et puis pouvoir me faire kiffer. Je travaillais en juillet pour me faire kiffer en août. C'était le seul truc. J'avais pas fini mes études, donc j'avais encore espoir de faire autre chose que ça dans ma vie. Oui. Donc je m'étais pas dit que c'était un truc permanent, mais ça motive quand même à se trouver un métier cool.
Un vrai métier. C'était, voilà, c'était les études de quoi déjà ?
Alors, moi, j'ai fait un DUT de gestion.
Oh oui.
DUT GACO, gestion administrative et commerciale.
C'est fun.
Ouais, c'est fun. C'est vraiment. C'est un peu un DUT de merde. C'est ta tech de co, c'est très commercial. GEA, c'est très comptable, et nous c'était GACO, gestion administrative et commerciale, c'était entre les deux, ils vendaient la polyvalence. Au final, t'es bon en rien, t'es moyen en tout.
Et oh putain, c'est dingue de faire ça. Mais pourquoi avoir choisi ça ?
Et bah tu sais, je savais pas quoi faire de ma vie, je voulais faire fac de droit et tout, puis après je me suis dit mais en fac je travaillerai jamais. Il y avait un côté un peu scolaire dans les IUT, donc je me suis dit au moins t'as des devoirs, t'as des cours un peu obligatoires, donc il y avait un cadre un peu rassurant et surtout ça ouvrait un peu à tout. Ouais. Je me suis dit ok, je pourrais travailler dans n'importe quelle entreprise, donc j'ai fait ça pendant 2 ans.
Wow.
Et après j'ai fait une école d'hôtellerie, figure-toi, parce que pareil on m'avait dit, je me suis laissé convaincre en mode ouais mais tu pourras travailler à l'étranger, ça peut être cool et il y a toujours du boulot dans l'hôtellerie. Ouais. Tu sais, c'est l'époque où tu vis pas pour tes rêves, tu vis juste pour être sûr d'avoir un travail parce que t'es trop stressé de pas avoir de CDI et tu veux faire plaisir aux parents.
Ouais voilà, c'est comme ça, les parents ils nous...
C'est ça, mais moi, ils m'ont jamais mis une pression de dingue, mais il fallait avoir un travail et le stress de pas avoir de travail, tu te dis ok je vais faire de l'hôtellerie, au moins ça recrute, tu vois. C'était le gros argument de cette filière, c'était ça recrute. Et après ça m'a saoulé au bout d'un an l'hôtellerie, donc j'ai rejoint une école de commerce pas dingue, mais correct quand même. La 30e du classement, tu vois. Et voilà. Donc j'ai fait un master. J'ai réussi à jamais perdre d'année malgré toutes ces bifurcations.
Et surtout, ouais, t'as réussi à chaque fois à être accepté dans ce que tu voulais faire.
Ouais, c'était des admissions parallèles. J'étais assez ric-rac. J'étais pas très fort, mais bon, voilà. J'ai mon petit master tranquille qui me sert pas, mais c'est pas grave.
Mais alors, pour les plus jeunes qui nous écoutent et qui font des boulots un peu nuls, ça va passer, hein. C'est le début. Hein.
Oui, y a pas de problème. C'est normal.
C'est normal, on l'a tous fait. On a tous fait des trucs horribles. Et du coup, la question qui vient après, c'est est-ce que t'es plutôt bosseur ou flemmard selon toi.
J'ai tendance à dire que je suis flemmard, et puis je me rends compte que je fais quand même pas mal de trucs. Après, moi, j'en parle parfois un peu sur scène, mais je joue encore un peu beaucoup aux jeux vidéo, ça me saoule. J'aimerais réduire, mais c'est un peu addictif de se lancer une partie, et du coup, j'ai l'impression de rien faire. Des fois, je passe 2 heures à faire ça alors que je pourrais avancer sur des trucs. Je pense que s'il n'y avait pas eu le jeu vidéo dans ma vie, ma carrière serait un peu plus avancé que ça, vraiment.
Ah
ouais, vraiment. Mais c'est pas de la fainéantise, parce que quand je fais des trucs que j'aime bien, bah je m'y mets. Quand j'ai des deadlines, je suis toujours, je suis très ponctuel dans la vie, que ce soit pour des rendez-vous ou pour rendre des dossiers, des machins. Mais tous les trucs où j'ai pas de deadline, je peux sombrer dans, ouais, ça peut être apparenté à de la fainéantise ou alors de faire autre chose, quoi.
Surtout que ça, c'est vraiment, toi, c'est vraiment du jeu vidéo de loisir. Il y a aucune, tu ne deviendras jamais gamer, quoi.
Ah non, mais je suis nul en plus.
Ah, t'es pas bon. Ouais,
ah, je suis pas bon, quoi. Vu le temps que j'y passe, je mériterais d'être vachement meilleur, mais c'est. Non, c'est plus de la sérotonine, quoi. Vas-y, envoie. Je sais plus si c'est celle-là ou l'endorphine ou.
Ouais, je sais plus.
Ça m'envoie des stimuli.
Ça t'envoie des stimuli. Et ouais. C'est donc League of Legends, surtout.
Principalement.
Ouais. Principalement. Bravo, j'y connais rien, j'y ai jamais joué. Mais je te fais confiance. Donc plutôt bosseur. Sur les trucs qui te passionnent, quoi.
Ouais, voilà, c'est ça.
Très bien. Écoute, on voudrait savoir, j'ai bossé toute la semaine comme un tolard. C'est quoi la semaine type de bâbord?
La semaine type de bâbord, bah, c'est donc depuis 4 mois, j'emmène mon petit bout de chou à la nounou. Quand je rentre, j'essaye au moins une ou deux fois par semaine d'aller au sport.
Oui, j'ai vu ça en story.
Ouais, je le mets en story, ça me motive beaucoup de faire des stories parce que j'aime vraiment pas ça. C'est plus pour m'entretenir, je pense que je fais les 3/4 des exercices mal, à part la planche, ça je maîtrise, et le tapis, ça va aussi. Et après, j'essaye de bosser. Alors c'est soit j'ai des rendez-vous sur des projets, typiquement le spectacle de Léopold que je coécris. Bon bah voilà, on va avoir une réunion de 2 heures, bah j'y vais, etc. Soit c'est bon voilà d'autres projets pour lesquels j'ai des rendez-vous avec des gens. Soit j'essaye de me motiver justement sur mes trucs perso où je travaille de chez moi. Ça va être ma chaîne YouTube. Essayer de trouver des nouvelles vannes pour mon stand-up où je travaille beaucoup avec ma copine aussi, on a plusieurs projets ensemble donc voilà, donc c'est en fait je m'organise un peu je vais dire cette phrase de connard mais j'ai pas de semaine type mon gars.
Ouais.
Voilà, c'est ça.
Mais du coup dans tous les projets que tu fais, donc notamment avec Camille qui est ta compagne et Léopold qui est déjà venu dans ce podcast, vous arrivez à être efficace même si vous êtes potes? Genre, t'as une réunion de 2 heures, ça bosse vraiment ou c'est vraiment...
On essaye, parce qu'en fait, il faut savoir, pour l'instant, il me paye mes sandwichs tous les midis et il veut pas les payer pour rien, donc...
Ah, c'est lui qui paye la bouffe?
Ouais, en général, ouais.
Quand
ouais,
même.
Oui, quand même. Voilà. Non, parce qu'écrire un travail, c'est un truc de longue haleine, t'en sais quelque chose. Mais du coup, c'est vrai que ça fait plus d'un an où, techniquement, j'ai pas été payé en salaire. Alors, il me paye effectivement mes sandwichs et ça payera quand il commencera à tourner, parce que du coup, ça marche. Sauf si ça flop, mais c'est un risque que je prends, parce que je crois en Léo et je crois aussi que le spectacle qu'on écrit est très marrant. Voilà, moi j'y crois. Mais du coup, oui, on arrive à bosser parce qu'on se voit quand même pour ça. Alors, après, on se fait des pauses le midi, on se met des vidéos YouTube à la con, évidemment, mais le but, c'est quand même d'avancer, surtout que là, bah, typiquement, on a une deadline. Il commence ses rodages en mars. Du coup, bon, bah, faut qu'on avance. Et avant, pareil, on avait un tout premier rodage qu'on a fait. On a fait une date à Angers. Bah, là, pareil, il fallait qu'on ait une heure prête. Donc après, c'était une heure qui était très imparfaite, mais il fallait qu'on ait quand même au moins 20-25 pages de ready, quoi. Donc, oui, on avance. Et avec Camille, en fait, on se voit toute la journée. Donc en fait, on se dédie des plages au travail.
Okay.
Des fois, on se dit, bon, bah, pendant 2 heures, on travaille sur notre court-métrage ou sur nos stand-up respectifs. Et puis, on essaye d'avancer ensemble ou sur un appel à projet ou je sais pas quoi.
Et du coup, qu'est-ce que tu dirais, par exemple, si quelqu'un se dit, ah bah tiens, moi aussi j'ai un spectacle, je pourrais très bien bosser avec Bâbord, mais qu'est-ce que tu dirais, qu'est-ce que toi tu apportes dans le spectacle de Léopold, par exemple?
Je le rassure beaucoup parce qu'il doute.
Ouais.
Non, puis surtout, c'est, en fait, j'apporte du ping-pong. Ce qui est chiant quand t'écris tout seul, c'est que t'as pas de recul. Des fois, t'as des. Moi, je crois beaucoup dans l'écriture à la passe décisive. Des fois, moi, je balance plein d'idées et Camille ou Léopold va rebondir en disant ah, ça c'est marrant et peut-être qu'on peut le formuler comme ça. Ou des fois, c'est lui qui me fait une passe décisive et ça me donne une idée et voilà. C'est un échange, en fait. Je trouve que à deux cerveaux, a priori, ce sera toujours meilleur pour écrire que tout seul. Alors après, ça nécessite aussi de se mettre dans la peau de l'autre. Moi, il y a des fois, j'ai des vannes qui me font beaucoup rire. Il me dit ça, c'est drôle, mais garde-les pour toi parce que ça colle pas à mon personnage.
Ouais.
Et des fois, la difficulté, je trouve, quand tu coécris, c'est de coller au personnage de l'autre.
Ouais.
Des fois, il y a des blagues qui peuvent passer pour les deux, et du coup, ça, elles lui plaisent, et du coup, je lui laisse avec plaisir. Mais sinon, moi, ce que j'apporte, ouais, bah, voilà, c'est une force de réflexion, c'est aussi une expérience. Ça fait quand même longtemps que j'écris des blagues.
Ouais.
Je pense avoir un sens de la punchline qui est plutôt développé maintenant.
Mais c'était ça la question, c'est quoi ta force en tant qu'auteur, ta plus-value en tant qu'auteur par rapport à quelqu'un d'autre? Tu dirais que ce serait quoi? Sans se la péter, mais...
Non, sans se la péter. Bah, je sais pas, j'essaye de... comment dire? J'ai un petit ego en tant qu'auteur, je déteste faire des trucs qui ont déjà été faits ou qui ressemblent à des trucs qui ont déjà été faits.
Normal.
Après, en toute humilité, j'essaye, tu vois. Après, évidemment, rien n'est unique, surtout en humour, mais j'essaye d'apporter une manière de penser un peu différente, en tout cas avec mon petit univers, si on peut dire comme ça. Voilà, après, c'est juste, ça fait longtemps que je fais ça, que j'écris. Alors, pas forcément pour le stand-up, mais en tout cas, ça fait quand même longtemps que je fais des vannes, ça fait plus de 10 ans sur Internet. Voilà, j'ai travaillé sur plein de médias et de projets différents.
Tu as travaillé sur des projets où il n'y avait pas de vannes ou pas du tout?
Oui, ça m'est déjà arrivé, mais je suis quand même plus à l'aise quand il y a des vannes. En tout cas, maintenant, les projets qui m'intéressent, c'est s'il n'y a pas de vannes, il faut vraiment que ça paye très bien pour que j'y aille, quoi.
Et du coup, vu que toi, tu as la casquette de je suis auteur et j'aide des gens à faire des spectacles, toi, pour ton propre spectacle, parce que j'imagine que c'est l'ambition.
Un jour, j'aimerais bien, ouais.
Est-ce que toi, tu as besoin d'un ping-pong à quelqu'un ou tu te dis que tu vas le faire tout seul?
Par ego, j'aimerais bien me dire que je vais le faire tout seul, mais du coup, j'ai ma cartouche Camille. Qui est du coup ma copine avec qui, si je dois coécrire, a priori ce serait avec elle. Enfin, c'est même sûr, on s'est déjà dit. Moi j'ai envie d'écrire avec elle pour son spectacle et j'ai envie qu'elle écrive avec moi pour le mien.
Et pour vos 8 minutes, vous avez déjà écrit ensemble ou c'est des trucs que vous avez fait vous-même?
En fait, on fait toujours une première passe nous-mêmes, mais ouais. Après on se fait tout relire et on améliore et on se dit, ah, telle formulation ça peut être bien, ça me fait penser à telle vanne, donc on va. C'est 80-20, tu vois, c'est 80 elle qui écrit son texte, très clairement, mais après, bon, voilà, il y a 20% où je l'aide à reformuler, et vice-versa d'ailleurs, c'est dans les deux sens. C'est ça qui est hyper cool quand on est en couple, parce que je sais pas si c'est à force de traîner ensemble qu'on a le même humour, ou si c'est parce qu'on a le même humour qu'on s'est mis ensemble, mais en tout cas, j'ai confiance en son talent, et elle me fait confiance aussi, et du coup, voilà.
C'est beau ce que tu dis.
Ouais, mais je trouve ça dur de trouver avec qui s'entourer, pour le coup.
Ouais.
C'est, moi, quand je réfléchis, j'ai pas forcément d'idée. Je côtoie plein de gens talentueux autour de moi, mais je me dirais pas forcément « Ah, ça collerait pour travailler avec moi ». Du coup, la personne avec qui je partage ma vie, c'est peut-être la meilleure option.
Mais je suis un peu d'accord avec ce truc, je sais plus à qui je disais ça la dernière fois, j'ai quand même l'impression que c'est pas un ego de d'écrire tout seul, mais il y a un truc où c'est tellement passionnant d'écrire une blague, de la jouer et de voir les gens rire et de chercher la solution pour qu'ils rigolent encore plus, qu'en fait, si quelqu'un vient et me dit « Ah bah tu vois, tu devrais faire ça », j'ai l'impression que d'avoir joué à un jeu vidéo, de pas réussir à le finir et quelqu'un me le finit, tu vois.
Oui,
tu sais ce que
complètement.
Je veux dire ? Et t'es là, ouais, mais j'ai passé tellement de temps. J'ai pas envie que quelqu'un me donne la solution.
Mais tu vois, typiquement, moi, il y a une vanne la vanne des chocolatines que je fais souvent dans mes 8 minutes.
Ouais.
Je crois que cette chute-là, c'est Camille. Tu vois, je cherchais un truc et c'est Camille qui m'a dit « Ah, chocolatine !» Et j'ai trouvé ça super drôle.
Ouais,
et
très marrant.
Tu vois, typiquement, ça, c'est elle. Et maintenant, je me la suis complètement appropriée. C'est, entre guillemets, c'est ma vanne, mais je lui dois, tu vois.
Bravo. Alors, si tu étais... Ah oui, parce que j'ai bossé toute la semaine comme un tôlard. Toi, t'as été en procès, t'as risqué la tôle.
Ouais.
Non, t'as pas risqué la tôle.
J'ai pas risqué la tôle, j'ai risqué des frais, pour le coup.
Combien?
En fait, on sait pas, parce que lui, il demande forcément des trucs délirants.
Attends, on va rappeler aux gens ce qui s'est passé, aux gens qui savent pas vraiment.
J'ai fait une vidéo, je suis aussi youtubeur, et j'ai fait une vidéo où je parlais d'un influenceur qui est en fait un fou influenceur qui a beaucoup, beaucoup de faux abonnés. Genre vraiment, il en a 18 millions.
Et on a plus le droit de dire son nom?
Si, c'est David Michigan.
Ah bah voilà,
voilà, c'est ça.
David Michigan.
Donc il a 18 millions d'abonnés, et je pense qu'il y en a 95% de faux. Je l'ai dit dans une vidéo en argumentant, c'est une grosse vidéo, c'est mes petits formats un peu enquête, et ça lui a pas plu, il m'a fait un procès. Donc un procès que j'ai documenté, un procès que j'ai gagné en première instance, puis en appel. Et du coup, alors effectivement, j'ai risqué pas la tôle, hein, parce que c'est pas des trucs suffisamment importants pour risquer la tôle, mais c'est vrai qu'il me demandait, je sais plus, 50 000 euros de dommages et intérêts.
Oh là là.
Alors après, quand bien même il aurait gagné, c'est pas parce qu'il gagne qu'il a forcément ce qu'il demande. Le juge peut dire, alors oui, on vous donne raison, mais par contre, 50 000 euros, voilà, ça peut être 5 000 euros. En fait, je sais pas combien je risquais concrètement.
Ouais.
En tout cas, lui, pour me faire peur, il me demandait des sommes absolument astronomiques. Voilà. Et au final, c'est lui qui a dû me rembourser mes frais d'avocat. Voilà.
Ah bah trop bien, bravo. Et bah donc t'as pas risqué la tôle, mais j'ai une question pour toi que je dois évidemment à mon ami JB de Tales from the Click. Si tu étais dans le couloir de la mort et qu'on te donnait le choix de ton dernier repas, ce serait quoi?
Dur à dire.
C'est dur, hein.
Je pense que j'irais sur mon... Je me ferais pas chier, je prendrais mon repas spécial. J'appelle ça une bouillasse. Camille a appelé ça une bouillasse parce que c'est un...
Ah bah donne-nous la recette de la bouillasse.
Alors c'est très simple, c'est des pâtes.
Miam.
Avec sauce tomate.
Oui.
Parmesan.
Oui.
Et je prends du Saint-Agur et je l'écrase dedans. Ça fond vachement, comme quand les pâtes sont chaudes, le Saint-Agur fond. Et moi, je trouve ça trop bon. Et donc, c'est des pâtes au bleu et au parmesan et à la sauce tomate. Les gens trouvent ça en général assez dégueulasse quand je leur dis que je mélange la sauce tomate et le fromage.
Bah pourquoi?
Je sais pas. Bah, mais en tout cas, souvent, il y a un côté un peu répugnant. Les gens sont répugnés.
Ouais, les puristes des pâtes.
Voilà. Mais moi, j'aime bien. Alors, c'est vrai que ça fait une espèce. Quand tu le présentes, c'est bon. Tu t'aimerais pas voir ça au restaurant, quoi. C'est une espèce de gloubi-boulga infâme. Camille, ça la dégoûte parce qu'en plus, elle aime pas le fromage. Mais voilà. Je pense que je demanderais ça. Je resterais sur un classique parce que de toute façon, en fait, moi, quand je suis stressé, j'ai pas faim. Et donc, je pense, tu vois, déjà avant de monter sur scène, je mange jamais.
Ouais.
J'ai encore du mal. Je suis encore trop stressé. Alors, je pense qu'avant de me faire exécuter. Je serais un petit peu nerveux, voilà.
Oui, je vois ce que tu veux dire.
Donc si ça se trouve, je commanderais le plat et je le gaspillerais. Voilà,
mais même, je trouve que monter sur scène en ayant mangé, t'es plus dans les mêmes dispositions, t'es trop lourd.
Ah ouais ?
Il faut que ce soit... Je pense qu'il y a toujours une part de ventre vide et même parfois t'as envie de pisser, tu vas pas pisser. Comme ça, t'es sur la...
Ah ouais, carrément.
T'es sur les nerfs.
Pour un 8 minutes, oui, pour un spectacle, je pense qu'il vaut mieux pisser avant.
Ah oui, pour un 8 minutes, évidemment.
Ouais, ouais.
Eh ben, très bon, la petite bouillasse, bravo.
Merci à toi.
Les paroles d'après, c'est « Alors, fini l'usine, fini la trim. » Yes. C'est une question que je me pose souvent. Si tu gagnais au loto, déjà, est-ce que tu joues à des jeux d'argent ? Pas du tout ?
Non, pas du tout. Je suis très radin.
Pas du tout ton truc ?
Je suis très radin. La perspective de perdre de la thune dans un truc où j'ai 0,000, je sais pas combien de chances de gagner, ça me rendrait malade.
Bon, t'es pas joueur, quoi. Pas de casino, rien du tout.
Non.
Ok.
Ouais, non, mais si, quand j'y vais avec des potes, je mets 30 balles, mais je sais que je mettrai pas plus. Si je les perds, bah, je les perds. Et puis c'est pas grave. Je vais pas remettre pour me refaire, tu vois.
Et donc, si tu gagnais au loto, est-ce que tu t'arrêterais de bosser ?
Je bosserais plus que sur des projets à moi.
Mais par exemple, tu te dirais pas, bon, j'arrête le stand-up, j'ai gagné au loto.
Stand-up, ça, je pourrais continuer. À voir. Je me mettrais pas dans. Enfin, si ça me stresse trop encore, parce que là, je suis dans la phase où je débute, donc ça me stresse encore pas mal. Mais si je vois que bon, au bout de 3 ans ça me stresse encore, peut-être que j'arrêterai, j'en sais rien. Mais en tout cas, je continuerai à faire ce qui me fait kiffer. Si je gagnais au loto, je me suis toujours dit je ferais mon film, tu vois.
Ouais.
Je financerais mes propres projets, je sais pas ce que je ferais.
Mais t'as déjà l'idée du long métrage ?
Ah oui, il est écrit.
Ah, tout est écrit, ok.
Il est écrit, ouais, j'ai un long métrage qui est écrit et j'aimerais bien faire un financement participatif dans pas trop longtemps et j'aimerais le tourner cette année dans l'idéal. Voilà.
Eh ben alors, justement, qu'est-ce que tu penses de ça ? Du financement participatif ? Parce que moi, je me pose souvent la question, je me dis tout le temps qu'il y a des mecs de 13 ans qui donnent de la thune à des mecs de 40 ans pour faire des trucs, tu vois. C'est toujours un
peu bizarre. Je suis d'accord, c'est chelou. J'ai la chance d'avoir une audience qui est, moi, c'est 25-35 et plus, okay. Globalement. J'ai peu de... Enfin, j'ai 0,02 de mineurs, déjà, donc c'est sur mes analytics, okay. YouTube, donc, ou 0,2, tu vois. C'est vraiment très faible. Donc non, j'ai que des majeurs. Je sais que je le demande pas souvent. Là, c'est vraiment un truc pour soutenir le projet. Enfin, je vais vraiment le présenter en mode, si vous aimez bien mon travail que je propose gratuitement depuis longtemps et que vous voulez financer un délire comme j'en ai déjà proposé, j'ai déjà fait 2 longs métrages vraiment très à l'arrache, mais c'est quand même des longs métrages que j'ai proposés sur YouTube, et vous voulez me voir un petit peu évoluer, vous voulez devenir producteur du film, bon bah libre à vous, je vous en serai reconnaissant, mais voilà, j'ai pas de... Enfin, de toute façon, les gens n'obligent jamais, évidemment, mais là je sais pas, c'est un projet sur lequel j'ai bossé, tu vois, j'ai déjà investi sur le projet, je suis allé m'isoler à Saint-Malo pendant une semaine pour écrire le truc, tu vois, donc okay. j'ai écrit 80 pages, donc c'est du boulot, j'ai pas l'impression de me foutre de la gueule des gens.
Ouais.
Après c'est vraiment et puis il y aura des contreparties sympas, tu vois,
genre un dîner avec Babor.
Exactement, ou le DVD, tu vois, j'aimerais bien avoir le DVD à partir d'un certain montant ou ce genre de choses. Donc moi je trouve ça cool les crowdfunding. Voilà, faut pas en abuser, faut pas en faire 25 par an, mais non, je trouve pas que ce soit honteux de faire un crowdfunding. Moi, je dis ça aussi parce que je veux en faire un, mais...
Il y avait une influenceuse qui avait fait un crowdfunding parce qu'elle disait, bah, moi, je vous fournis du contenu gratos, seulement mon téléphone, il commence à faire des mauvaises vidéos, il est trop vieux. Du coup, c'est un crowdfunding pour m'acheter un nouvel iPhone.
Ah oui, bah, non, alors ça, je trouve... Ouais, non, oui, non, ça, non, effectivement.
Oui, bah non, là, c'est trop.
Je me rappelle, il y avait un mec qui faisait ça aussi, il voulait se faire payer des trucs. Locan.jp, ça te parle ?
Non.
C'était un mec qui postait que sur Vimeo. Il avait un blog et il postait que sur Vimeo.
Okay.
Et lui, il s'est fait tacler sur Twitter, mais parce que tous les ans, il s'achetait le nouvel iPhone.
Ouais.
Mais en crowdfunding, tu vois.
Ouais, bon, allez, stop. Là.
Mais oui, voilà. Non, mais surtout, t'as pas besoin du nouvel iPhone tous les ans. Alors, c'était un YouTuber un peu tech et tout, mais là, non, tu vois. Moi, c'est bon, là, c'est un gros projet. Voilà,
oui, bien sûr.
Mais bon, c'est.
Non, mais c'est sûr que les gens, ils vont être contents en plus de participer à ça.
J'espère.
Ben oui.
Tu vas donner combien, toi, tu penses ?
Moi, ben, si j'ai un rôle dans le film.
Ah oui, ah oui, d'accord, ah voilà, c'est pas le soutien désintéressé et pur. Non, mais je me dis, si on met tous 200 euros, ça peut monter super vite, quoi. Juste 200 euros.
C'est énorme, 200 euros.
Non, mais je plaisante.
Mais comme tu joues bien la comédie, je sais pas.
Mais je sais. Non, mais souvent, les gens, ils disent oui, mais si tout le monde met 1 euro, tu sais, tu dis j'ai 200 000, 200 000 abonnés, si tout le monde met 1 euro, ça fait 200 000 euros, c'est génial. Mais bon, voilà.
Mais il n'y a jamais 200 000 abonnés qui voient la news passer.
Je sais.
Alors, merde. Bon, bref. Tout ça pour dire. Donc, tu n'arrêterais pas de bosser si tu gagnais l'auto. Très bonne réponse. Aïe, ma belle. Ce soir, je vais rentrer très, très, très tard. C'est ça, les paroles. Tu trouves ça bien écrit, déjà ?
Ouais.
Ouais.
L'interview est menée.
Non, mais je parlais des paroles. Les paroles de la fista.
Ah oui. Ah oui, non. Les paroles de Pat.
Ah oui, les paroles de Pat. Alors, première question avec ça. Je vais rentrer très 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 tard. Est-ce que tu es un couche-tard ?
Ah, pas du tout.
Pas du tout.
Oh non, vraiment pas du tout. Et plus je vieillis, plus les soirées qui se finissent très tard, ça m'intéresse de moins en moins. Là, au 31, je me suis couché à 22h.
Et moi aussi.
C'est vrai ?
Ouais.
Ah bah voilà. Non, non, je suis pas très couche-tard. Je dis pas, si vraiment il y a une soirée très sympa, je peux évidemment rester tard, mais c'est vraiment deux soirées par an.
Non, mais même quand il n'y a pas de soirée, c'est-à-dire quand t'es chez toi ?
Non, en semaine, minuit et demi.
Ah, ça joue pas à League of Legends toute la nuit, quoi ?
Ah non, non, pas du tout. Ouais, non, okay. Non, minuit et demi, dodo.
Minuit et demi, dodo.
Ouais, voilà ça. Max.
Petite camomille et tout, quoi. Ouais, ouais, je vois le délire. Gros fêtard. Bah, exactement. C'est la fiesta de Patrick.
J'en ai soir certains, mais je ne suis pas fêteman. Malgré ce que. Voilà, c'est ça.
Alors, et la question d'après, c'est Aïe, ma belle, ce soir, je vais rentrer très, 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 très tard. C'est quoi la première chose que tu fais quand tu rentres chez toi d'une journée ?
C'est une bonne question. Moi, je vais assez vite sur l'ordinateur quand même. Hein.
Ouais ?
Ouais, ouais. Non, globalement. Parce qu'en général, je cale mes réunions le matin parce que je suis plus efficace le matin. Typiquement, avec Léo, j'y vais souvent le matin. Et du coup, après, ma journée est entre guillemets finie vers 14h. Donc, quand je rentre, je suis tout content. Je peux aller gamer comme un porc.
Oui.
Voilà, c'est ça. Donc, en général, je fais toujours une ou deux petites games. Et après, je retaffe, du coup, mais sur des projets perso.
Mais on a une petite tenue de maison ou on reste en jean ? Il y a un jogging de maison ?
Alors, non, oui, alors, moi, je suis assez. Je m'habille assez mal, globalement. Et j'ai toujours des tenues un peu décontractées. Donc là, c'est pas forcément un jogging, mais tu vois, c'est des trucs un peu loose et tout. Je me prends pas la tête. J'aime pas m'habiller. Ou alors, je sais pas, j'ai peut-être pas les codes ou quoi, mais genre, je mets toujours les mêmes fringues. Et du coup, non, je reste en général comme je suis.
Okay.
Je peux pousser le vice jusqu'au jogging, vraiment, si j'ai envie d'un peu de trucs douillets, mais c'est pas exclu que je sois déjà en jogging pour la réunion avant, donc voilà.
Mais t'as des chaussons ?
J'ai des chaussons.
Ouais. Oui, charentaises ?
Ouais, si des charentaises, les trucs, le talon, il est ouvert.
Non, c'est pas des charentaises.
Ah, c'est pas des charentaises,
alors. C'est des pantoufles.
Ouais, voilà, c'est ça.
Des petites pantoufles.
Tu vois, je suis nul en vêtements, je sais même pas ce que c'est une charentaise. Je te mens pas.
Est-ce que c'est des pantoufles un peu fantasy ?
Ah non, pas du tout.
Avec Garfield ?
Non, c'est des. Elles sont assez épaisses, je peux même aller dehors avec. Je vais acheter le pain avec, tu vois. Donc,
Du Birkenstock ? Non, c'est pas ça ?
Non, je sais pas.
Il est nul en vêtements.
Attends, si seulement on pouvait mettre des photos dans les podcasts, malheureusement non.
Et non.
Et non.
Malheureusement non. Très bien. La première chose que tu fais chez toi, quand tu rentres chez toi, c'est de te mettre sur l'ordi. Ok.
Ouais.
Et donc, ensuite, la parole d'après, c'est. Alors, ciao l'ennui, viva la nuit. Est-ce que tu étais un enfant qui arrivait à jouer seul ou alors tu t'ennuyais souvent ?
J'arrivais très bien à jouer seul. Moi, tu me filais des Lego, je faisais des aventures, des guerres, des personnages, des machins. Après, j'ai deux petits frères et une petite sœur, donc j'ai toujours été, jamais été vraiment seul. Et sinon, au niveau des potes, par contre, j'étais plus. Oui, non, j'ai eu des potes, j'ai pas eu trop de problèmes à l'école. Donc,
Et quand tu. C'était quoi tes jouets préf quand t'étais petit ? Lego.
Alors très petit, j'ai eu ma phase comme tout le monde dinosaure, engin de chantier. voilà.
Ancien de chantier. Que des vieux ouvriers.
C'est ça. Et sinon ouais, j'étais très Lego. Moi j'aimais bien les différences d'échelle. Tu vois, j'aimais bien faire des guerres entre les petits Lego et les gros Playmobil, les trucs comme ça. J'aimais mixer les univers. Voilà, donc j'avais pas un truc en particulier, mais moi j'aimais bien mixer et voilà.
Et le jeu vidéo, c'est arrivé tôt dans ta vie ?
C'est arrivé un jour, je m'en rappelle, je suis allé chez un pote à moi et j'ai vu son petit frère qui jouait à StarCraft 1.
Ouais.
Mais tu sais, il y jouait même pas avec une souris, avec les souris à boules, mais où la boule, tu la tournes avec ton pouce.
Ouais.
Donc vraiment le truc le plus désagréable avec lequel jouer. Mais je me rappelle cette image de. Tu vois comment ça marche, StarCraft ? Tu sélectionnes des unités, tu fais la guerre et tout.
Ouais.
Et je me rappelle avoir vu sélectionner des unités, c'était des espèces de gros Goliath qui allaient tirer sur des aliens. Et j'ai trouvé ça trop stylé. Et j'ai su que je voulais jouer à ce jeu. Et mon beau-père, par chance, donc il travaillait en station de ski, il avait un ordinateur de fonction. Et je lui demandais tous les week-ends de me le ramener pour que je puisse jouer à StarCraft. Et c'est un peu comme ça que j'ai eu ce déclic de jeu vidéo. Je suis très PC, moi, par contre.
Ouais,
très PC.
T'as commencé sur PC, t'as pas eu de console.
J'ai eu une 64, mais j'ai très vite été plus attiré par le PC.
Ok.
Voilà.
Pas du tout de Game Boy et tout. T'es pas du tout passé par là.
Si, j'ai joué à Pokémon comme tout le monde et tout, mais j'ai toujours été très PC.
T'es un peu un geek, quoi.
Je suis un peu un geek, ouais. Mais j'aimais bien le côté, après, je craquais des jeux et tout. Je jouais beaucoup à des. J'adorais acheter des démos. Il y avait des démos dans des magazines.
Ouais.
Voilà, tu finissais pas le jeu, du coup, tu faisais le niveau en boucle, mais je kiffais, quoi.
Je kiffais. <C'est> Écoute, la question d'après, c'est. T'étais quel genre d'enfant ?
Je crois que j'étais gentil, plutôt sage. J'ai pas eu de crise d'ado.
Ok. Enfin,
en tout cas, non, j'ai jamais été trop casse-couille. Bon voilà, je crois que j'aimais déjà un petit peu faire le con.
Ouais, c'est ça la
J'étais
question.
J'étais un petit peu un rigolo.
Parce que ça arrive, genre, ça arrive quand l'humour dans ta vie? C'est-à-dire que ça a toujours été un peu là ou dans
ça arrive assez tôt. Moi, dès le collège, j'enregistrais des chansons parodiques avec mes copains, on tournait des vidéos. J'ai eu très tôt, j'ai fait des petits dessins animés quand j'ai découvert qu'on pouvait cumuler Paint et Windows Movie Maker et animer des trucs. Très tôt, j'ai sorti des dessins animés de 20 minutes faits à Paint et Windows Movie Maker.
Trop bien.
Qui était censé être drôle. Alors, je pense que ça a mal vieilli, mais.
Tu te souviens d'un des scénarios ou pas?
Ouais, on a sorti une trilogie, donc trois dessins animés de 20 minutes qui s'appelaient Monks. C'était des petits moines dans un monastère et il se passait des dingueries, il y avait Satan qui arrivait et tout. Et après, j'ai eu ma première petite caméra. Non, c'est mes cousins qui avaient une caméra, après j'ai eu la mienne, mais on avait tourné des parodies de Prison Break qui sont toujours sur YouTube d'ailleurs. Alors ça, c'était plus quand je suis juste après mon bac, donc c'était un petit peu après. Ça s'appelait Chambre Break. voilà, c'était un mec, sa mère le privait de sortie et du coup il avait des post-it, qui est l'équivalent du tatouage de Prison Break, mais il avait des post-it tatoués sur le dos avec le plan de sa chambre pour s'en sortir. Et du coup voilà.
Trop bien.
Parce que j'étais fan de Prison Break, donc on avait fait une série comme ça.
Et du coup, à quel moment tu te dis l'humour, je pourrais en vivre?
Alors en fait, plus tard, j'ai fait ce cheminement de, je faisais des vidéos sur YouTube, mais je sens jamais me dire que je pourrais en vivre un jour. Et c'est arrivé, mon premier job après l'école de commerce, c'était, je bossais dans le marketing du cinéma, chez Metropolitan Film. Et en parallèle de ce job, donc je devais avoir, je crois, 21, 22 ans, j'ai lancé mon compte Twitter. Un peu par ego, parce que je voyais des comptes humour qui avaient plein d'abonnés, que je trouvais pas forcément si drôles. Et je m'étais dit, ok, il y a peut-être une carte à jouer avec un humour un peu débile, un peu provoque. Donc c'est comme ça que j'ai créé Babord sur Twitter. Donc voilà, Babord existait sur Twitter en 2012, je crois. Et petit à petit, mon compte a bien marché, mieux que ce que j'avais prévu.
Et tu m'avais raconté que tu avais carrément une discipline de tweet.
J'étais un psychopathe de tweet. Je tweetais à heure fixe, 10h30, midi et demi, 14h30, enfin toutes les 2h.
Wow.
Et tous les tweets qui faisaient moins de 100 retweets, je les supprimais parce que je voulais donner l'impression que sur mon compte, il n'y avait que des bangers. Tu vois, 100 retweets à l'époque, c'était pas mal. Et du coup, je programmais mes tweets. Et même quand je partais en vacances, la cadence était un peu moins élevée, mais j'avais au moins 5-6 tweets programmés par jour pendant les 15 jours où je partais, tu vois.
Mais comment tu les écrivais? C'est-à-dire,
c'était des tweets un peu intemporels, c'était pas des tweets d'actu, mais je les écrivais d'avance. J'ai encore mon ancien doc avec 70 pages de brouillon de tweets, avec des jeux de mots, des trucs.
Il
s'appelle Tweets non programmés. Et du coup, comme sur Twitter, j'ai un peu percé, j'ai atteint assez vite 80-100 000 abonnés. Je me suis fait repérer par Golden Moustache, qui ont été les premiers à me proposer d'écrire des petits articles. Je me rappelle, c'était des horoscopes. Alors, j'en faisais un par semaine. Je prenais 70 balles, j'étais content. Et un jour, ils m'ont dit...
Ça, c'était ton premier job d'auteur, quoi.
Ouais, voilà, c'est ça. Et un jour, ils m'ont dit, écoute, on est en train de monter une rédaction d'articles. On cherche des gens à temps plein pour écrire un article par jour. Et là, mon travail chez Metropolitan, donc après, j'ai fait un stage chez Metropolitan et après, ça s'est transformé en CDD. J'ai enchaîné les CDD là-bas, j'ai fait 3 ans là-bas et au bout d'un moment, ils ne pouvaient plus me garder. Ils m'ont dit, on ne peut pas convertir en CDI et tout. Et j'ai dit, écoutez, ça tombe très bien, on me propose un truc à côté. Donc, c'est rare dans la vie quand ça se passe nickel, mais là, on ne pouvait plus me garder en CDD. Et il y avait Golden Moustache qui m'avait dit 2 semaines avant, on cherche quelqu'un à temps plein. Donc, je dis, ok, c'est le moment. En plus, Golden Moustache payait en droit d'auteur. Et j'avais droit au chômage, donc je cumulais chômage plus droit d'auteur. C'est le petit truc, le petit hack qui a été très cool pendant 2 ans, c'est que j'avais double paye, donc c'était trop bien. Je sais pas si je devrais le dire. Non, mais c'est complètement légal, on peut cumuler le droit d'auteur avec,
bien sûr,
le Pôle emploi.
Mais c'est marrant ce que tu dis, parce que c'est des trucs qu'on t'explique jamais quand on va te parler de ta vie future quand t'es dans les études. C'est des métiers, évidemment des métiers dont on ne te parle pas, parce qu'à l'époque ça existait pas vraiment, et surtout c'est des métiers qui arrivent via des activités annexes. C'est-à-dire, tu t'es mis à tweeter, d'un seul coup, t'es devenu auteur parce que t'étais bon en tweet. Mais c'est pas un truc qu'on peut t'expliquer à l'école.
Complètement.
Tu vois ce que je veux dire?
Mais j'ai mis vachement de temps à accepter, à dire « Ok, je suis auteur ». Même quand j'étais chez Golden Moustache, j'en vivais, mais c'est plus après, quand je suis passé chez Beagle, pour faire la même chose, écrire des tweets. Et après, il y a Monsieur Poulpe qui est venu me chercher pour écrire des émissions télé, etc. Et donc là, il y avait un côté où... Ok, je fais pas que mes petits articles sur un site, il y a une grosse prod télé et tout, et psychologiquement, ça m'a aidé à me dire « Ouais, en fait, on m'appelle maintenant pour écrire des blagues, donc ça y est, je suis auteur. » Mais ça a mis quelques années. Chez Golden Moustache, je me considérais pas encore comme tel, je m'estimais juste chanceux, en fait, et je me suis dit « Ça peut s'arrêter à tout moment. »
C'est aussi parce que c'est des métiers où on n'a pas de diplôme, on n'a pas de CV, quoi. C'est-à-dire, c'est des expériences de « T'es marrant, écris une blague, puis bon, c'est écrit nulle part, quoi. »
Puis, mais au bout d'un moment, ce qui est cool, c'est que quand t'es pro, c'est con, mais déjà juste rendre des textes à l'heure, rendre une certaine quantité de matière. Quand t'es auteur, faut accepter aussi que tout n'est pas parfait. Golden Moustache, j'écrivais tous les jours. une fois par semaine, j'avais un article, c'était un banger incroyable, c'était super, ça faisait des stats de ouf. Et puis les deux jours d'après, t'as pas d'inspi, tu sors un article médiocre. Ça arrive, faut l'accepter, quoi.
Tu parlais d'inspiration, est-ce que t'as un... Comment tu la trouves, toi, l'inspiration ? J'allais dire, tu préfères écrire la nuit ou le jour, mais toi, c'est le jour, c'est le matin.
Je suis plus le matin, moi.
Toi, t'es le matin. Et comment
moi, j'aime bien me débarrasser.
Ouais.
Alors, ça dépend. Les trucs qui sont vraiment très perso, je peux les écrire n'importe quand et tout, mais quand j'ai des deadlines, des trucs à rendre, moi, j'aime bien me débarrasser. Donc, je vais me motiver. Pendant 3 heures le matin, je vais faire ça. Et après, je sais que je suis pépouze. Donc,
et comment,
ça, c'est cool.
Comment tu dirais que tu trouves l'inspi ?
L'inspi, moi, je m'abreuve beaucoup de tout ce que je vois sur les réseaux sociaux. Je pense que j'ai une écriture assez web parce que moi je m'inspire de tous les trucs un peu teubés que je vois passer sur Facebook, sur Twitter. Et après, sinon, j'essaye de. Bon, c'est comme tout le monde, hein, c'est dans la rue. Je m'inspire de ce que je vois autour de moi.
Toi, ça part un peu de la parodie, ce que tu fais, quoi.
Ouais, souvent, c'est un truc. Ouais, souvent, ça part un peu de la parodie. En tout cas, ce que je propose en ligne, souvent, c'est des trucs où je me dis ça c'est ridicule et je vais essayer de le détourner un petit peu.
Parce que tu passes beaucoup de temps sur les réseaux ?
Ouais. Ouais, ouais, je scrolle beaucoup sur Insta.
T'as un temps d'écran catastrophique ?
En vrai, quand je regarde, je crois que c'est 2 heures d'Insta par jour, ce qui est quand même beaucoup.
Ouais, c'est beaucoup.
Ouais.
Mais je crois que j'ai plus.
Ouais, en moyenne, hein, c'est une moyenne.
Mais bon, le terrible réflexe.
C'est déjà beaucoup. Alors après, bon, c'est pas que du. C'est pas que de la consultation. Après, tu vois, je pense que quand tu discutes sur Insta aussi,
ouais,
ça compte.
Ouais,
quand,
ouais.
Quand tu publies tes trucs, ça compte aussi. Souvent, quand tu postes un truc, bon, bah voilà, tu regardes tes stats un peu. Je vais pas mentir, je passe beaucoup de temps à regarder les stats. Quand je poste un truc, j'aime bien que ça marche.
Ouais, ouais. Et justement, quand tu postes une vidéo sur ton Insta, ça te prend combien de temps ? C'est-à-dire entre le moment où tu as l'idée et tu la sors ?
Ça dépend du format. Des fois, il faut être réactif. Tu vois, genre quand il y a un truc sur Depardieu, je me dis, ah, je vais faire 5 bonnes raisons de ne pas aller au centre équestre avec Depardieu. Bon, bah, ça va quand même assez vite. Après, tu vois, là, je sors des parodies un peu de. Comment ça s'appelle ? De mecs qui font des podcasts inspirants. Bon, voilà, c'est tout un petit setup à mettre en place chez moi. Tu vois, je positionne le fauteuil en face du mur, je mets mes petites lumières, j'essaie d'avoir une qualité un peu meilleure. Mais bon, en vrai, ça met 2 heures à faire. Surtout que j'essaye d'en tourner plusieurs d'un coup. Voilà. Mais l'écriture, en général, ça va assez vite.
Parce que t'as la même discipline que t'avais sur Twitter, sur Insta ?
Non, pas du tout. Là, ouais. C'est plus quand j'ai une bonne idée, je me force pas à poster. Après, si je reste 3 semaines sans poster, je vais me sentir mal dans ma peau en me disant « Ah, les gens vont m'oublier !» Donc, voilà. Mais j'essaye de poster, je sais pas, un truc par semaine, quoi. En reels. Après, les stories, c'est plus c'est au feeling.
Donc, t'es quand même très attaché au fait que... Mais dans le bon sens, hein, c'est pas du tout une critique. T'es quand même très attaché au succès de ce que tu postes. T'as pas un je m'en foutisme d'échec, quoi.
Non, si vraiment ça floppe, je pense que je peux archiver le truc.
Okay.
J'aime bien quand ça dépasse au moins le nombre d'abonnés que j'ai sur Insta, typiquement. Voilà. Après, YouTube, je suis un peu plus laxiste. YouTube, je sais que... En fait, YouTube, comme je veux pas m'enfermer, si je voulais que ça marche à chaque fois, je ferais que mes formats un peu enquête documentaire, parce que ça marche toujours.
Ouais.
Ça fait toujours plus de 100 000 vues, et là, je suis content. Mais sur YouTube, j'essaye de pas m'enfermer, parce que sinon, après, les gens attendent plus que ça, et je trouve ça dommage. Donc, je m'autorise aussi des formats un peu plus longs, des petits vlogs où je raconte ma vie, tu vois, le vlog où je raconte que je suis père.
Ouais, j'ai vu.
Bon, bah voilà, ça, je sais que les gens viennent pas forcément pour ça, et en même temps, j'ai pas envie de me priver de le mettre en ligne, parce que c'est mon média, je fais ce que je veux, tu vois. Après, si vraiment j'ai un doute, je vais le mettre sur ma chaîne secondaire, tu vois.
Mais... Ah oui, t'as une chaîne secondaire, c'est vrai ça.
Oui, sur YouTube, mais bon.
Eh bien, très bien, bravo pour tout ça. Écoute, c'était le Hacha au l'ennui, vive à la nuit. C'est une question, tu réponds par oui ou par non. Est-ce que tu as un bon sommeil ?
Bof.
Bof.
En fait, j'ai du mal à m'endormir. Quand je dors bien, mais je galère à m'endormir.
Parce que t'as le cerveau qui tourne trop ?
Ouais, souvent, ouais. Ouais, ouais, c'est ça. Je pense à des trucs et puis.
Tu penses à des
choses légendes ? Je me dis qu'il faut. Non, mais... non, ça pour le coup, j'y pense pas en off. Okay. Non, pour le coup, je pense plus à mes blagues, où j'en suis dans ma vie ou ce genre de choses.
Ok. Eh bien, écoute, la question d'après, c'est je vais passer chercher Jean-Paul, Jean-Pierre et toute la compagnie. Première question, qui est évidemment nulle. Tu préfères le prénom Jean-Paul ou Jean-Pierre ?
Jean-Paul, c'est le nom de mon grand-père que je
kiffe.
Oh,
magnifique.
T'as dit maléfique ou magnifique ?
Magnifique.
Ah oui, j'ai entendu maléfique.
Maléfique. Et est-ce que tu es un mec qui a plutôt quelques potes un peu éparpillés ou une vraie bande de potes soudés depuis longtemps ?
J'ai vraiment mes potes avec qui je pars en vacances et tout. On est 4, on est très soudés. Et j'ai mes 3 potes d'enfance, pardon, qui sont quand je rentre en famille en Haute-Savoie. Mais sinon, moi, j'aime bien avoir plus que ça et avoir une belle bande de potes, tu vois. Et je t'inclus dedans. Maintenant, tu vois, il y a toute une nouvelle famille. En fait, ça marche un peu par petite famille. Tu vois, là, j'ai la petite famille stand-up depuis que j'ai commencé. Ouais. Bah, il y a toi, il y a Étienne, il y a Léo, il y a Antoine. Et je trouve ça trop cool de se créer un peu des nouvelles familles au fil de la vie, au fil des projets. J'ai toute ma bande de potes d'internet avec Sylvquin, Lorraine, Natas, etc. Donc voilà, ça marche un peu par.
Mais t'es plutôt fidèle en amitié, quoi. T'as des potes depuis méga longtemps.
Oui, je pense que je suis assez fidèle en amitié, ouais. Après, je dis pas, parfois ça arrive de perdre des gens de vue, mais globalement, je suis assez fidèle.
Ok, bravo, j'aime bien. Et la question d'après, c'est est-ce que tu es de bonne compagnie selon toi ?
Oh, je pense. Je pense que je suis cool.
T'es facile à vivre ?
Ouais. Ah ouais, moi je suis pas chiant. Et puis surtout, moi, j'ai l'impression que ma seule plus-value dans un groupe, c'est de faire des vannes, donc je pense. Après, c'est dans circonstances, je sais parler sérieusement aussi, je sais m'ouvrir à l'autre, je sais être à l'écoute, je pense, et j'aime bien m'intéresser un peu à l'intimité des gens, pas l'intimité, la baise, hein, juste l'intimité, les problèmes de cœur, les trucs comme ça. La baise, clairement la baise. Non, mais oui, je pense être le bon compromis, pardon. Je fais plein de vannes et tout quand je suis en société, mais quand je suis un peu plus isolé avec les gens, je m'intéresse vraiment à eux en profondeur. Ce qui fait de moi vraiment un partenaire de vie à avoir sous sa botte.
C'est magnifique ce que tu dis. J'attendais la fin de cette phrase avec impatience.
Battu, voilà.
Ce qui fait de moi un partenaire de vie à avoir sous sa botte. Bravo. Donc très bonne compagnie. Oui, c'est vrai que t'as pas l'air chiant, quoi.
Non, j'aime pas le conflit en plus. Non, je pense pas être un mec à problème.
Donc, t'es très agréable à
en
vivre,
plus,
on l'a compris.
J'ai pas le temps pour les trucs chiants. J'ai ma petite vie bien rangée. Voilà, je suis d'autant plus maintenant que je suis papa. Voilà, j'ai ma petite femme, ma petite Camille, mon petit Kindred, c'est son nom de code. Et voilà quoi. Donc maintenant, c'est que du plus. Les amis autour, c'est que du plus. Donc autant kiffer.
Et justement, en parlant de ça, de comment t'es dans la vie, comment t'es en groupe, etc. Ce serait quoi si t'avais la valeur que tu voudrais inculquer à ton enfant, c'est laquelle ?
C'est une bonne question. Une valeur ? L'humilité, je pense.
Ouais.
Je déteste les gens qui se la pètent. Voilà.
Mais c'est une bonne valeur. Très bien. L'humilité.
J'espère que j'ai pas dit des trucs qui laissent penser que je me la pète dans ce podcast avant.
C'est exactement ce que je me suis dit quand tu l'as dit.
Parce qu'en fait, l'humilité, parce que j'ai envie d'en faire un gamin trop stylé.
Ouais.
Mais du coup, je veux pas qu'il se dise « je suis trop stylé », je veux qu'il se rappelle quand même que t'es toujours plus stylé si en plus tu te la racontes pas. Genre.
Ouais.
Voilà, c'est tout. Ouais. Et je veux qu'il soit trop fort, je veux qu'il soit trop drôle et tout, mon gamin. Mais je veux que, voilà, les gens pensent qu'il l'est, mais pas qu'il se la pète.
Toi qui portes beaucoup d'importance, et même Camille aussi, à l'humour, à la vanne, etc., c'est quand même une grosse partie de votre vie. Tu t'es pas dit, imagine ton gamin, il est pas marrant.
Je l'aimerais quand même.
Oui, tu l'aimerais quand même.
Et on sera complémentaires. non, bah après. Je pense pas, vu comme je vois, comme je le kiffe, alors qu'il sait même pas encore parler, je me dis, il peut pas me décevoir.
Okay.
Mais bon, après,
c'est dur.
Je sais pas si c'est dans les gènes ou quoi, mais avec Camille, je pense qu'on est un peu rigolo, donc j'espère qu'il aura ce trait-là. C'est pas qu'on va l'éduquer pour, mais en tout cas, on va le nourrir de références et tout. Je vais lui montrer des films qui m'inspirent, que je trouve marrants, et je pense qu'il aimera faire des blagues, mais s'il aime pas, tant pis, il choisira sa voie, il sera peut-être très talentueux dans autre chose, et je serai aussi fier de lui s'il devient pompier, que chanteur à succès.
C'est magnifique ce que tu dis, parce que dans 20 ans, il réécoutera ce podcast et il t'entendra dire ça.
Exactement, que nettoyateur d'aspirateur chez Tout Éclat par Kessel. Nettoyateur. Je n'ai pas parlé ce matin, j'aurais dû accepter le café qu'on m'a proposé en arrière.
T'inquiète. Les paroles d'après, très beau ce que tu dis en tout cas, merci beaucoup. Les paroles d'après, c'est Joséphine, Marilyn, Catherine, Caroline. Bon.
Lequel je préfère ?
Non, pas du tout.
Non, ok, non, je sais pas, comme tu m'as fait avec Jean-Pierre, Jean-Paul.
Est-ce que tu es ce qu'on pourrait appeler un véritable tombeur ?
Tombeur, je suis pas sûr.
Oui.
J'ai toujours eu un peu des relations longues.
Ouais.
Donc, j'ai jamais eu de phase dans ma vie où pendant 2 ans, vas-y, j'enchaîne tout ce qui bouge et tout. La seule fois où j'ai eu 1 an de vrai célibat, j'étais un peu nul, je crois. J'en ai pas du tout profité.
Ouais.
C'était en IUT. Donc voilà, mais sinon après j'ai vraiment enchaîné plutôt les relations longues à coup de 3 ans.
C'était la question d'après, est-ce que tu as beaucoup d'ex ?
Pas tant que ça, je dirais 4-5, j'ai pas compté, mais 4-5, mais du coup toutes longues, et je crois que je m'entends bien avec toutes, donc...
ah ça c'est bien ça.
Ouais, je les revois encore un peu toutes de temps en temps, et ça se passe bien, donc... j'aime pas être brouillé, ce que je te disais, j'aime pas le conflit. Après bon voilà, ça arrive que ça se finisse mal, mais même ma première ex avec qui ça s'est pas super bien fini... Bon, bah, on se recroise de temps en temps et c'est cool. Voilà,
mais il y a vraiment un truc qui se dégage de tout ce que tu racontes. C'est-à-dire que dans n'importe quel... pour l'instant, ta vie, elle a été très... Ça s'est passé, tout est passé tranquillement, non ?
Oui, et ce qui est un peu un problème pour le stand-up, parce que des fois j'ai l'impression que les gens ils ont toujours des trucs à raconter de ouf, des histoires, soit de cul, soit des ex et tout, et moi c'est, ça a toujours été assez smooth, mais bon je veux pas me plaindre d'avoir une vie plutôt heureuse, tu vois.
Non, trop bien.
Mais c'est vrai que des fois j'ai l'impression que pour le stand-up faut se nourrir un peu de trucs, un peu de, pas de problèmes, mais de... Voici des moments un peu durs de la vie qui peuvent nourrir certaines, enfin, l'inspiration.
Après, tu peux aussi faire des trucs d'actu et ça, il y a plein de façons de le faire.
Complètement, mais alors j'aime pas trop l'actu, moi.
Ouais.
Enfin, en tout cas, je me reconnais pas dans l'humour un peu politique et tout. Il y a des gens qui sont très bons là-dedans, tu vois. Typiquement Pierre-Emmanuel Barré, je le trouve trop drôle. Émeric Lompré, il fait du très bon humour politique. Moi, c'est pas des trucs qui m'inspirent. Je suis plus dans des trucs un peu absurdes et tout.
Et d'ailleurs, la politique, c'est un truc qui t'intéresse ? Tu regardes ce qui se passe ?
Je regarde ce qui se passe, mais ça me fait plus peur que ce que ça m'intéresse, là.
Oui, oui. Mais tu veux dire que t'es quand même au courant de tout ce qui se passe en politique
Oui, au courant de tout, non. Après, je suis quand même un minimum.
Genre, tu regardes les actus, les news, le journal et tout
Je regarde, je suis abonné au Monde.
Ah oui, bah voilà, bah quand même.
Voilà,
bah
c'est
quand
ça.
Même, c'était
pas ouais. Non, mais tu vois, je vais plus m'intéresser, pas tant la politique, mais tu vois, la guerre en Ukraine, ça m'a fasciné. Vraiment, j'étais sur le live du Monde en train d'actualiser pendant les 3 semaines qui ont suivi. Alors, je sais que ça continue, mais je me suis un peu pas lassé, mais bon, maintenant que c'est un peu rentré dans... On a pris l'habitude maintenant, mais à un moment, je tapais Daesh tous les jours quand ils étaient au pic de leur fame et qu'ils avaient leur état et tout.
Ouais, pour voir où ça
je tapais tous les jours dans Google Actu le moindre article et tout, donc je m'intéresse quand même à l'actu. Mais la politique en tant que telle, j'ai tellement l'impression... Pas que c'est tous des pourris, mais que c'est que des mecs avec des égos surdimensionnés qui veulent absolument arriver au pouvoir coûte que coûte, qui retournent leur veste et tout. Je suis un peu déçu. Okay. Voilà.
Non, mais c'était plus pour savoir si tu avais une sorte de bulle de jeux vidéo, vannes, trucs, etc. Ou si tu étais vraiment. Tu disais parce que l'actu ça t'intéresse pas trop, mais est-ce que tu. Parce que moi par exemple, je suis pas vraiment l'actu, tu vois.
Je vais aborder l'actu par un prisme un peu absurde. Tu vois, le seul réel que j'ai posté de stand-up, c'est les blagues sur Poséidon. Tu vois, je dis, ah ouais, moi, le conflit israélo-palestinien, tué au nom de la religion. Et après, je dis que je vénère Poséidon. Donc, je vais en faire un truc vraiment débile. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'emmener les gens dans un univers qui est un peu le plus débile possible. D'ailleurs, dans ce que j'écris, pour la scène en tout cas, les gens disent que c'est un peu des one-line. Alors, oui, c'est peut-être vrai, mais en tout cas, c'est... J'essaie toujours de partir d'un truc vrai, soit d'actu, soit de ma vie, et après je fais une vanne un peu débile.
Je sais pas que tu fasses des one line, pas vraiment.
Ah ouais.
Non,
m'a déjà dit ça, mais après c'est pas.
C'est pas vraiment ça. Mais ouais, ok.
Parce que c'est hyper bien écrit et que tout s'enchaîne hyper fluidement, mais
oui, oui.
C'est du one line.
Bah il y a un auteur.
Voilà.
Et la question d'après c'était, bon bah du coup t'as eu des ex, ça s'est tout bien passé, etc. Est-ce que tu te considères bon en drague?
J'ai le sentiment d'avoir. Quand quelqu'un me plaisait vraiment, d'avoir toujours réussi à parvenir à mes fins.
Oui.
Mais après, c'est peut-être quelqu'un qui s'intéressait aussi à moi, donc je sais pas si c'est être bon en drague quand c'est un peu mutuel dès le début.
Mais ce serait quoi
en tout cas, draguer draguer comme ça dans un bar ou quoi, je suis pas sûr d'être bon en drague.
C'est l'humour, quoi. Qui te...
Oui, voilà, en tout cas, oui, je pense que moi je suis un être solaire. Non, mais voilà, je vais faire des blagues et si je sens que quelqu'un est réceptif, évidemment, ça va aider. Mais maintenant que je suis un petit peu visible sur les réseaux, j'imagine que ça pourrait m'aider aussi. Tu vas te dire, oui. Bah regarde, je suis marrant. Mais je drague pas, donc ça fait longtemps que j'ai pas dragué, donc ça fait plus de 5 ans maintenant que je suis avec ma petite Cams, donc
qu'on embrasse.
Voilà, j'ai plus trop je sais pas ce que je vaux sur le marché de la drague actuelle. Je pense que je ferais un carnage si j'étais même.
J'ai inculqué l'humilité, évidemment.
Évidemment.
Alors oui. La question d'après, la parole d'après. Je vais passer prendre mon petit frère, même ma grand-mère, si elle s'ennuie. Alors, tu l'as dit un peu tout à l'heure, est-ce que tu as une grande famille ?
On est 4. On est 4.
Dans la famille rapprochée, mais alors, est-ce que t'as des réunions de famille où vous êtes nombreux ?
J'ai pas mal de cousins, alors c'est pas en mode cousinade et tout, mais on doit être 8-9, je veux pas compter, mais si je compte tous mes frères plus mes cousins du côté de ma mère, en tout cas, c'est ceux de qui je suis le plus proche, on est 8-9. Donc, et on est une belle famille qui s'entend bien, plutôt soudée.
Ouais.
Ouais, ouais, non, c'est cool.
T'aimes bien les réunions de famille ?
Ouais, bah tous les ans à Noël, une année sur deux, on est tous ensemble et c'est hyper cool parce que sinon on est chez les compagnes, les machins.
Ouais.
Mais ouais, on a une belle famille plutôt soudée. Je m'entends trop bien avec tous mes frères et sœurs que je salue d'ailleurs. Et non, c'est cool. On n'est pas une famille à problème.
Toi, t'es le grand frère ?
Ouais, je suis l'aîné de toute la famille en comptant les cousins.
Et t'étais quel genre de grand frère ?
Je suis pas sûr d'être protecteur, parce que je suis pas assez musclé pour être un grand frère protecteur. Je pense être assez sympa. En tout cas, maintenant, je sais que, par exemple, c'est terrible, mais mon petit frère, le deuxième, je crois que je l'ai un peu traumatisé quand il était gamin, parfois. Oh. Tu sais, des fois, non, mais des fois, quand t'es gamin, tu te rends pas compte, tu fais des trucs horribles. Je crois que quand je le gardais, je lui faisais un truc que j'appelais la discipline, où je lui disais, tu bouges pas et tout, mais tu sais, des trucs que tu fais quand t'es gamin, et je crois que ça l'a un peu traumatisé après. non, mais j'ai une anecdote terrible. Il allait un peu chez le psy, mon petit frère, et à un moment, la psy lui avait demandé de dessiner toute sa famille, et donc il avait fait tout le monde en mode bâton comme le ferait un gamin, et moi j'étais le seul qui était à part avec des grandes griffes.
Et je m'en veux trop.
Je me suis dit, putain, j'ai été méchant avec mon petit frère et tout. C'est des trucs, je devais être ado et lui il devait avoir bon, il a 5-6 ans de moins que moi, tu vois, mais du coup, ouais, c'est horrible d'avoir fait peur à ton petit frère alors qu'aujourd'hui tout va bien, on se kiffe, on s'entend trop bien. En plus, je suis son parrain, tu vois. Mais donc voilà, Martin, si t'écoutes ce podcast, je suis désolé de t'avoir traumatisé quand t'étais gamin. Mais voilà, on se rend pas compte, on fait des trucs parfois pas cool quand on est gamin, qui peut avoir des répercussions.
C'est marrant parce que moi, je me souviens d'un truc de mon frère. On a 16 ans d'écart, donc c'est mon grand frère. Moi, je suis le dernier. Et c'est pas en gros, c'est pas vraiment mon frère, c'est mon demi-frère.
Ok.
Bon, c'est mon frère, quoi. Et quand j'étais petit et qu'il me gardait, parce qu'il me gardait évidemment, il avait 16 ans, tu vois. Dédicace à Jean-Phi. Il me poursuivait. Il avait un masque de vieillard.
Oh, horrible.
Donc il me gardait, il se cachait dans l'appart. Et je l'appelais, et je le voyais pas. Et il sortait avec le masque de vieillard, il me coursait et il mettait Iron Maiden à fond. Mais quand t'avais 4 ans,
mais ça doit être
Iron
terrible.
Maiden avec la pochette Number of the Beast avec le diable, Eddie et tout. Quand t'as 4 ans, tu flippes de fou.
Non, mais oui, c'était terrible.
Et il me faisait méga peur. Et j'y repense maintenant. Et après, il enlevait le masque, il fait bah alors, t'étais où et tout. Tu sais, genre, t'es la balle, c'était genre, il y avait juste un vieux qui t'a poursuivi.
il soufflait le chaud et le froid, mais c'est terrible. Ouais, mais du coup, ouais, moi, je pense que je lui ai fait très peur et du coup, je m'en vais aujourd'hui et voilà. Mais aujourd'hui, je pense que je suis un bon grand frère, tu vois.
Mais alors, c'est la question d'après. Donc, dans ta famille, est-ce que c'est une famille où il y a de l'humour, où on rigole beaucoup?
Franchement, avec mes frères et tout, mes sœurs, on se marre bien. On
ça
se marre
des
bien.
Vannes et tout.
Oui, on se fait vraiment des vannes. Alors après, ils sont pas du tout dans le même secteur. Tu vois, mon frère, celui que je t'ai évoqué là, il bosse dans l'informatique. Mon autre frère, il est prof.
Okay.
Ma sœur, qui est ma petite sœur et qui j'ai 16 ans d'écart aussi, donc comme
voilà.
Toi avec ton frère, elle fait des études de sciences politiques. Elle est encore en études, voilà. Donc, mais tu vois, elle est à fond écologie, machin, elle est hyper engagée politiquement. Bon, bah, à chaque repas de famille, je me fous de sa gueule, okay. Elle est à fond sur Raphaël Glucksmann et tout, mais c'est une source de vannes, elle le prend trop bien parce qu'elle est habituée à ce qu'on fasse des vannes tout le temps, et moi je suis un peu la locomotive à vannes de la famille, mais ils sont pas en reste, hein. Ils sont très drôles aussi, c'est juste que bon, moi j'en ai fait un métier avec Twitter, etc. Mais tout le monde est marrant dans ma famille, et ça je suis très content.
Ah bah trop bien. Bravo. Eh bien, oui, on a compris. Bon, alors, c'est une super famille où on rigole bien et vous êtes bien proches et tout le monde s'aime. Les paroles d'après, c'est Amandine, Colombine, Adeline et sa cousine. La question est très simple. T'es déjà sorti avec ta cousine?
Non, en plus, mes cousines sont plus jeunes que moi. On était beaucoup de garçons à la suite.
Ah oui, d'accord.
Ouais, la première cousine s'est faite attendre longtemps. Mais non, je ne suis jamais sorti avec ma cousine.
Très bien, merci. Parce que franchement, j'avais pas trop de questions sur ces paroles-là, je suis désolé. Hein.
Je t'en prie.
Et ensuite, c'est jusqu'au petit jour, on ira faire... Évidemment, la fiesta. C'est quoi l'activité que tu peux faire nuit et jour, tous les jours, sans te lasser?
L'activité que je peux faire nuit et jour, me branler. Non, je ne m'en lasserai jamais.
Yes.
Non, mais j'ai un peu répondu. C'est terrible d'ailleurs. C'est un peu les jeux vidéo, moi. C'est ma drogue.
Mais pourquoi tu trouves ça terrible d'ailleurs?
Mais parce qu'en fait.
T'as un peu honte de faire ça?
Non, j'ai pas honte. C'est juste. J'ai le sentiment que si j'avais pas eu les jeux dans ma vie, en même temps, ça détend, c'est un loisir comme un autre, mais c'est un loisir qui prend trop de temps.
Ouais.
Tu vois, au lieu d'en faire 2 heures par jour, j'en ai déjà fois fait 5-6 heures, et si je remplaçais, enfin, tu vois, le delta, j'aurais pu bosser sur des projets, même des projets perso, des vidéos YouTube et tout. Je veux dire, j'aurais peut-être pu sortir le double de vidéos YouTube si j'avais pas perdu du temps sur les jeux.
T'as besoin de déconnecter le cerveau pour rester créatif aussi.
Ouais, mais tu vois, Camille, par exemple. Elle, pour déconnecter, bah, elle regarde des séries, des trucs. Et c'est quand même vachement plus enrichissant de regarder un film ou une série.
Ouais.
Je regarde aussi des films et des séries, bien sûr, mais moins que ça, tu vois. Elle regarde plus facilement des docus et tout. Et moi, je vais dire, vas-y, je me détruis la tête sur League of Legends. J'en parle un peu souvent, mais parce que c'est un truc qui me... ça me ronge de l'intérieur.
Ça travaille.
Me ronge de l'intérieur.
Ça travaille un peu, pas mal. Donc, les jeux vidéo, hélas. La fiesta. Bon, on l'aura compris. Je crois que je connais la réponse. C'est quoi ton rapport à la fête? Pas du tout, t'aimes pas la fête?
Non, si, j'aime bien la fête, c'est juste, bon, maintenant que j'ai passé les 30 ans, je suis plus très branché alcool, j'en bois encore. Hein,
c'était la question d'après, tu bois? Est-ce que tu bois? Oui.
Oui, je picole un petit peu, mais c'est pas, c'est raisonnable. Ça fait très longtemps que j'ai pas vomi, et maintenant après 3 bières, j'ai la langue pâteuse le lendemain matin, et ça m'attire plus trop, quoi. Je préfère largement être en forme le lendemain et rentrer plus tôt.
Et est-ce que tu peux nous raconter la pire soirée de ta vie?
Pire soirée de ma vie? Je crois que c'est le soir de ma première cuite. Je devais avoir 16 ans ou 16-17, je sais plus, mais mes parents étaient partis. Et du coup, j'avais fait venir des potes, et c'était ma première cuite, c'était à la tequila. Et je crois que j'étais vraiment de tous celui qui avait le plus bu, mais... Et je me rappelle, tous mes potes avaient vu que j'étais fracassé, ils m'avaient enfermé dehors, ils étaient dehors avec moi, ils m'avaient fait croire qu'on était enfermé dehors, donc terrible, tu vois, j'étais en slip dans mon jardin, il faisait super froid, ils me jetaient des, il y avait un bac à sable de notisseur dans le jardin, ils me jetaient des petits bouts de sable, j'étais là, les petites billes, je sais pas, j'étais complètement fracassé, et à un moment j'étais tellement mal, j'ai tout gerbé dans mes draps, et je me rappelle, et j'avais un pote à moi, mon pote Mamar, qui était sympa, qui essayait de me faire gerber tant bien que mal dans la poubelle. Et alors pendant que les autres, ils en avaient rien à foutre, ils jouaient à, comment ça s'appelle, Day of Defeat dans ma cave, parce que mon ordinateur était dans ma cave, et eux, ils en avaient rien à foutre, et c'est eux qui m'avaient un peu poussé à boire, c'était ceux dans la cave qui m'avaient un peu poussé à boire, et moi je me suis réveillé le lendemain matin dans une mare de gerbes, et j'ai dû nettoyer les draps, je savais pas me servir d'une machine, j'avais 16 ans, j'étais nul, et du coup je l'ai dit à ma mère, et bon, elle m'a pas tant gueulé que ça, mais...
Ouais, enfin, voilà,
il y avait des draps mal lavés, plein de gerbes, t'as honte, quoi. Ils m'avaient laissé la maison tout seul pour la... Peut-être pas la première fois que c'était un week-end tout seul, mais bon, c'était...
Du coup, t'as plus jamais pu reboire de tequila, j'imagine.
Tequila, plus jamais. Plus
c'est,
jamais
horrible. C'est horrible.
Je la sens, j'ai envie de vomir.
Je comprends. On va danser et lever nos verres. Est-ce que dans les soirées, tu danses?
Oui, mal, mais je danse.
Tu danses, ça te dérange pas de danser, quoi?
Non, ça me dérange pas de danser. J'ai pas spécialement d'anecdotes sur la danse.
Mais voilà, c'est un truc que tu peux faire, quoi.
J'avais appris quelques mouvements de tectonique pour une soirée tectonique.
Ah oui?
Non mais gentiment, mais voilà.
Et alors, on va danser et lever nos verres. Si tu devais porter un toast à quelqu'un de ton choix tout de suite, ce serait qui? Rendons hommage à quelqu'un que tu aimes.
Putain, David Michigan, hein. Ouais. J'aimerais porter un toast à David Michigan.
Ok.
Parce que je stagnais à 50 000 abonnés sur ma chaîne YouTube.
Ouais.
Et grâce à toutes les vidéos, y compris celle du procès qui m'a permis de faire, je suis passé à 200 000. Et donc, bon voilà, alors la vidéo initiale m'a déjà pas mal rapporté d'abonnés, mais le fait qu'il m'ait fait un procès, je le remercierai jamais assez, ça m'a permis de décoller, quoi.
Donc, bah,
merci, David.
Merci David. Merci à toi.
Et c'est grâce à toi que CyberGhost me soutient depuis et me rince de thunes, c'est un délire.
Écoute, David, si tu nous écoutes, merci. Hein.
Voilà.
Ce qui nous écoute, je pense pas. Ce soir, on est les rois de la Terre. Si demain tu deviens le roi de la Terre, quelles seraient tes premières mesures?
J'interdis la violence. J'interdis les armes.
Ouais.
Je fais détruire toutes les armes.
Ok.
Voilà.
Du coup, on se bat à main nue, quoi.
Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que j'interdis d'autre? Non, c'est tout, quoi. Ouais, voilà, on se bat à main nue. Je rends obligatoire
le
de faire des bisous à tout le monde. Voilà.
Ok. C'est des bonnes mesures, merci. On finira la tête à l'envers. Alors, est-ce que t'étais bon en gym à l'école?
Pas spécialement, je suis pas souple du tout.
Ah bah c'est la question d'après, est-ce que tu es souple?
Bah écoute, pas du tout. J'avais un kiné qui me faisait faire des exercices d'assouplissement tellement j'étais pas souple. Il me comparait régulièrement à un manche à balai.
Oh, nickel.
Voilà, donc il essayait de m'assouplir parce que j'avais mal au dos quand j'étais ado. Toujours un peu maintenant, mais ça va mieux. Et du coup, le mal de dos passait par l'assouplissement. Enfin, et du coup, non, je suis vraiment pas souple, je suis pathétique.
Mais t'as fait des sports quand t'étais plus jeune? Genre du foot, des trucs comme ça?
J'ai fait un peu de volley.
Ouais,
ah voilà, ouais, je kiffais. Okay. Mais ça nécessite pas d'être souple, ça nécessite juste de sauter un peu haut. Et voilà.
Je
suis trop jaloux de mon fils quand il met son pied à la bouche et tout. Je suis là, putain, bâtard, profite, tâche de garder ça, quoi.
Bon, après, tu vas quand même à la salle, quoi. Tu t'entretiens vite fait.
Vite fait. J'ai repris là en début d'année et j'essaye d'y aller. Tu vois, j'aurais dû y aller ce matin, je ne suis pas allé parce que je manque cruellement de discipline.
Ouais.
J'admire les mecs qui y vont vraiment, qui charbonnent et tout. Mais en fait, je pense, mais ça revient à ce que je disais plus tôt, je suis un peu radin. Donc, du coup, je n'ose pas me payer un coach parce que comme j'ai des revenus un peu en dents de scie, c'est le propre de ces métiers-là, tu ne sais jamais combien tu vas gagner. Je n'ose pas me prendre un coach. C'est assez cher, les coachs, mais je pense que ça vaut le coup.
Oui, c'est cher, ça vaut le coup. Ouais.
Ça vaut vraiment le coup, je pense. Ça, j'en suis intimement convaincu. Mais comme, tu vois, il y a des mois, je gagne 1000 balles, il y a des mois, je vais gagner 4000 balles. Bon,
je
sais que si je raisonne en termes de moyenne, tout va bien dans ma vie, mais comme je ne sais pas de quoi demain sera fait. C'est toujours un peu délicat, quoi. Et j'ose pas me prendre un coach en mode allez, tu t'en prends un toute l'année.
Mais après, c'est le truc, c'est que t'as rendez-vous avec le gars, donc t'es obligé d'y aller, quoi.
Évidemment. Et non, à un moment, j'avais une coach pendant 2 mois l'année dernière, et t'y vas parce que t'as rendez-vous, donc c'est hyper efficace. Surtout, il s'assure que tu fais bien les exercices.
Et du coup, quand tu vas au sport, tu y vas pour quoi, en fait? C'est-à-dire que tu vas pour, tu te dis pour le cardio, pour avoir être un peu plus musclé, parce
pour
que
m'entretenir plus. Je me dis, je passe beaucoup de temps assis à glander. Bon, c'est bien d'entretenir un peu le cardio. Je fais toujours 20 minutes de tapis pour le cardio. Tu vois, je vais à 13 km/h et tout, ça décrase bien.
Pas mal.
Et après, je fais un petit peu les bras, un petit peu la planche pour les abdos, et voilà, je fais 30 minutes d'autres exercices.
Ok.
C'est un peu hasardeux. Je note quand même dans mon téléphone les poids que je mets et tout pour essayer de. Soit de progresser, soit en tout cas de ne pas régresser. Mais
Régresser, ce serait quand même bizarre.
Ouais.
Écoute, aïe ma belle, j'ai passé toute la semaine dans le brouillard. Ma question est la suivante. Est-ce que tu es sujet à la déprime ?
J'essaye de ne pas l'être. Après, parfois, je me remets en question aussi. Tu vois, là, typiquement, là, ce début d'année, on m'a un peu moins appelé pour des projets. Et du coup, je me dis, bon, bah, en fait, c'est quoi ? Je ne vaux plus rien sur le marché. J'ai l'impression de... Moi, comme je te disais, j'aime bien faire partie de petites familles. Alors, quand je bossais, par exemple, en télé avec Poulpe, c'était trop cool parce que j'avais l'impression pendant les 3 mois où on écrivait l'émission de faire partie d'une famille, d'aller jusqu'au tournage et tout, et après ça me faisait des trucs à raconter, c'était trop cool. Et là en ce début d'année, bon bah on m'a moins appelé pour des trucs, et du coup bah peut-être je dirais pas jusqu'à dire que je déprime, pas du tout, mais je me dis ah bah, j'aimerais bien qu'on me sollicite pour un truc, qu'on m'appelle pour un projet, et voilà quoi, tu vois, c'est aussi le métier d'auteur, c'est t'as envie qu'on te fasse confiance, etc.
C'est un peu ce que tu dis juste avant, c'est-à-dire que tu sais pas de quoi demain sera fait. Là tu dis ah bah quoi, je vaux plus rien, nanana, que t'es quand même quelqu'un d'anxieux.
Il y a un petit peu d'anxiété. Bah, je pense pas que ce soit ce qui me définisse le plus, mais il y a un petit peu d'anxiété. En fait, moi les projets perso, le stand-up, le YouTube et tout, je les fais quand j'ai le confort d'avoir un autre truc à côté qui me rapporte de la thune, tu vois.
Ouais.
Typiquement, quand j'ai un gros projet à côté qui me prend genre 2 jours par semaine, et ben je sais que les 3 autres jours, je peux en profiter pour faire les projets YouTube et compagnie. D'ailleurs, je suis toujours plus efficace quand j'ai un travail obligatoire à faire à côté sur mes projets perso. Parce que ça me motive, parce que je me dis aussi, ah, c'est cool, faut que tu vives de tes projets, mais comme j'en suis pas encore au stade où je vis de mes projets, du coup, je suis encore un peu dépendant de qu'on m'appelle pour des trucs, quoi.
Ok. Alors, fini l'enfer et la galère. Est-ce que tu crois au paradis et à l'enfer ? Pas du tout.
Pas trop, je suis assez cartésien.
T'es pas religieux ?
J'ai été baptisé et tout, je suis allé à la messe quand j'étais gamin, ça m'a quand même apporté une certaine culture, donc je suis quand même content de ça. Après, moi, je crois en la science et en le fun.
je crois aux blagues.
C'est ça, vive la théorie de l'évolution.
Et dans ta vie, t'as déjà été plus en galère de thunes, de taf, de charisme ou de meuf ?
Alors, attends, thunes, taf...
Charisme ou meuf ?
Non, j'ai pas eu trop de problèmes d'argent.
Toi, t'as vraiment zéro problème, c'est ça qui est fou.
Ouais, non,
vraiment, c'est genre.
Non, mais alors, charisme, on peut manquer de charisme parfois. Enfin, sur scène, j'ai l'impression de manquer de charisme, tu vois, parfois.
À la Deb Jam, par exemple.
À la Deb Jam, par exemple. Ouais. Dur souvenir.
Mais non, putain.
Non, mais parfois, c'est... en fait, le fait de. Tu vois, comme ça fait moins d'un an, et c'est grâce à toi que j'ai commencé la scène d'ailleurs, donc j'en profite pour te remercier.
Oh, merci.
Mais ça fait moins d'un an que j'en fais, et du coup, je sais pas si c'est un manque de charisme, mais tu vois, je cherche encore mon personnage sur scène. Je l'ai pas encore complètement trouvé. Donc il y a des soirs où j'ai l'impression de manquer de charisme, typiquement. Mais ça reste dans ce cadre-là assez spécifique du stand-up. Après, charisme, c'est un bien grand mot, mais j'ai pas l'impression d'être...
Mais surtout, j'ai l'impression que toi, t'es encore aussi dans la phase de stand-up où dès que tu fais une scène où ça se passe pas très bien, c'est genre, ouais, je vais tout arrêter, c'est affreux.
Non, je me dis jamais que je vais arrêter. Par contre, parfois, je me dis, ah, je suis fait que pour jouer devant mon public et pas devant d'autres gens. Alors que l'idée, c'est quand tu fais du stand-up, c'est quand même d'essayer d'ouvrir un peu à des gens qui te connaissent pas.
Bien sûr.
Et c'est ça que je recherche. Là, je veux essayer d'écrire des trucs. Je veux me forcer à essayer d'écrire des trucs qui sont peut-être un peu plus ouverts, un peu plus, sans dire mainstream, qui peuvent parler à n'importe qui.
Mais je trouve que tu y es déjà. Enfin, moi, pour moi, ça parle à n'importe qui. C'est pas trop niche ce que tu dis, tu vois.
Ouais, ça dépend, mais en tout cas, c'est peut-être dans la manière de le formuler. Je pense que j'ai encore du travail à faire à ce niveau-là. Faut que je trouve mon clown.
Oh, le clown.
Le clown.
Ok. Aïe, ma belle, ce soir, il y a confetti sur les boulevards. Oh, dis donc, c'est bien écrit. est-ce que tu es du genre à aller aux célébrations collectives ? Genre technoparade, fête de la musique, victoire des Bleus, etc.
Quand les Bleus avaient gagné, on avait fait la teuf à République avec Camille. Après, technoparade, j'y suis pas trop allé, mais bon, faites de la musique, je sors dans la rue, voir un peu comment ça se passe, tu vois,
ouais,
plus
voilà.
Par curiosité. Alors après, je vais pas rester, à moins qu'il y ait un concert génial, je vais pas rester 2 heures devant la même scène, mais j'aime bien voir l'ambiance dans la rue, tu vois.
Ok, tu vas à des manifs ?
Peu.
Peu.
Ouais.
T'es pas très militant.
Je suis pas hyper militant.
Ok.
Je suis pas hyper militant.
Et la question d'après, vu que tu viens pas de la campagne, mais bon, tu viens de Haute-Savoie.
C'est un peu la campagne, c'est la montagne. Campagne. Quoi, c'est...
Tu préfères la ville ou la campagne ?
C'est une bonne question. Je crois, dans le fond, que je préfère la montagne. À chaque fois que je rentre, je me dis, putain, qu'est-ce que je suis bien là ? Et en même temps, tous mes potes et toutes mes activités pro sont à Paris. C'est d'ailleurs pour ça que j'y suis. Mais à mon avis, dans 10 ans, l'objectif, c'est d'avoir une belle maison au bord du lac d'Annecy. Bon, c'est peut-être un peu trop cher. Faut vraiment que je casse la banque. Mais bon, faut être ambitieux dans la vie, merde. Ouais. Et non, mais en tout cas, je crois quand même que je préfère la campagne.
Ouais, c'est ça. C'est que tu dois finir ta vie quand même à la campagne.
Ouais. Oui, voilà, c'est ça.
Ok.
Mais là, je suis très heureux à Paris. Et les gens qui disent que Paris, c'est horrible et tout. Alors après, j'ai la chance d'avoir un métier où je suis pas obligé de faire le métro à 8h du mat tous les jours, voilà et tout. Mais Paris, je trouve, c'est quand même une belle ville. Il y a plein de trucs, ça foisonne de culture, de plateaux de stand-up, de machin. Il se passe des choses, quoi.
Pour le stand-up, on est au bon endroit, oui.
Oui, je pense aussi.
Viva la Renega et la Sangria. Franchement, je me suis mis sur ce texte pour trouver des questions, mais il y en a quand même pas mal des questions.
Ah oui.
Viva la Renega, la Sangria. Est-ce que tu as fait espagnol au collège? C'est quoi les langues que tu parles?
Je parle correctement anglais et ma mère a poussé pour que je fasse allemand.
Ah.
C'était pas un choix.
Ah, tu voulais faire espagnol?
Pardon, j'ai roté. Je sais pas ce que j'aurais voulu faire, mais je crois que je voulais pas faire allemand. Mais elle avait fait allemand, elle m'avait dit ah, mais comme ça je pourrais t'aider, etc. Et je me suis laissé un peu avoir. Et au final, je regrette pas parce que l'allemand, c'est plus rare que l'italien et l'espagnol. Et en soi, c'est cool d'avoir une langue un peu moins parlée. Mais en plus, c'est nos voisins économiques, etc. Donc, je pense qu'en soi, c'était un bon choix. Mais j'ai pas trop aimé l'allemand. Donc, je parle mal allemand.
T'avais des bonnes notes en allemand?
Pas trop.
Non.
Non.
T'avais pas des bonnes notes au global, toi?
Ah, si, si.
Ah ouais?
J'ai été très, très fort toute la primaire.
Oui, bah, comme tout le monde.
J'étais vraiment un boss. et après, collège, sixième, top. Et après, je suis devenu moyen 11, juste de quoi passer. Tu vois,
pareil.
Voilà. Mais j'ai eu ma mention bien au bac.
Ah, bah non, pas pareil alors.
Non, voilà, c'est ça. Non, mais voilà, quand même. Et j'ai quand même, tu parlais de langue, j'ai quand même fait latin jusqu'au bac et j'ai eu 17.
Voilà. Wow, bah t'as un big boss en fait.
Et j'ai douillé le. C'était telle année, toi, où il y avait un micmac au niveau du TPE.
Non, je sais pas ce que ça veut dire.
Non, travaux personnels encadrés, là.
Non, mais j'avais pas ça, moi.
Ok, non, parce que j'ai réussi à avoir un COEF 5 sur le latin et j'ai eu 17.
Putain, t'es fort, toi.
Ouais, 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 c'était pas mal.
Putain, bravo.
Ouais, je suis un boss. Civis pacem, parabellum.
De quoi?
Oh, c'est du latin.
tu peux dire, passons à la prochaine parole en allemand, s'il te plaît.
Der nächste... Expression, n'importe
Allez,
quoi,
merci.
C'est à peu près.
Eh bien, la prochaine parole, c'est « On va exploser la nuit en entraînant les plus jolies, Églantine, Coraline, Clémentine et Géraldine. » Pour trouver des questions là-dessus, c'est évidemment difficile. Est-ce que tu as des critères physiques auxquels tu attaches une importance particulière chez une femme, par exemple?
Je t'aurais bien dit oui, et puis en fait, toutes les filles avec qui je suis sorti étaient vraiment toutes radicalement différentes. Donc,
ok.
Oui, non, je veux qu'elle me plaise, je veux que moi je la trouve jolie.
Oui,
donc,
mais
voilà.
Les gens disaient, ah bah moi c'est le regard.
Énorme, Nibar.
Et bah voilà.
Voilà, et alors, c'est ça que tu voulais.
Et bah t'as bien le droit, et alors on s'en fout. De toute façon, c'est monté, et je vais évidemment garder cette réponse.
J'espère bien. J'espère
alors,
bien.
Énorme Nibar. Bravo. Et c'est quoi? Ah oui, bah là on le sait à peu près. C'est quoi le truc qui t'a fait exploser, en tout cas connaître aux yeux du public? C'est ta première vidéo qui a vraiment bien marché, c'était quoi?
Non, le premier truc où il y a vraiment beaucoup de gens, parce que Twitter, ça restait un petit peu confidentiel. Et un jour, j'ai sorti un article qui s'appelait « Je réponds à des candidatures », un truc comme ça. Et j'avais vendu cet article à Combini, figure-toi.
Ouais.
En gros, je postulais à plein de trucs d'offres de stage et tout, et je répondais des trucs de troll en mail. Et l'article a vraiment cartonné. Genre, avec Combini, il m'avait dealé un truc en mode des paliers par partage. Il m'avait dit ouais, si t'atteins 500 partages on te paiera par tranche et tout, et moi j'avais pas du tout confiance, j'avais dit ah ouais mais non je préfère un truc fixe et tout, ils ont dit non mais si c'est par partage c'est comme ça ou rien, parce que moi j'avais peur que ça atteigne jamais et du coup que je touche pas de thunes. Je reviens le lendemain, il y avait je crois 10 000 partages sur l'article.
Ah, wow.
Et du coup genre s'ils m'avaient payé ce qu'ils me devaient, ils m'auraient dû limite 5000 balles. Ils ont dit oui mais non ça se passe pas tout à fait comme ça. Je me suis fait douiller par Combini, j'avais trop la haine. Voilà. Mais du coup c'est cet article où c'est la première fois où sur mon compte Facebook perso, pas mon compte Facebook Babor, j'ai vu peut-être 13 personnes qui savaient pas que c'était moi Babor qui avaient partagé le truc. Et là je me suis dit ah oui effectivement il se passe quelque chose. Il y a vraiment
ah oui voilà.
C'était vraiment un carton intersidéral. Et après la deuxième truc c'était vraiment la vidéo de David Michigan qui a vraiment fait passer ma chaîne. D'un petit truc niche, un truc où il y a des gens qui se sont dit ah ouais il est cool ce mec, voilà. J'ai triplé mes abonnés grâce à lui.
Donc, allez, mais c'est souvent qu'il y a souvent des gens qui te reconnaissent dans la rue?
Pas souvent, une ou deux fois par mois je dirais, donc c'est vraiment le bon ratio. C'est
tranquille,
ça flatte un peu l'ego et c'est pas du tout relou, voilà.
Tu les aimes bien?
Mes abonnés, je les aime trop. Ils sont tous civilisés et trop polis.
Et comment ils s'appellent, les abonnés de Babord ? Ils
les...
ont un nom ?
C'est les Kingos et les Quinos.
Ah oui, les Kingos et les Quinos.
Voilà. Parce que c'est des rois et des reines dans mon cœur. C'est pour ça que je les ai baptisés comme ça.
Évidemment. Écoute, et ben ce sera la dernière parole de cette chanson, puisque après, c'est la fiesta en adlib.
Ok.
La dernière parole, c'est « Il n'y a pas de mal à se faire du bien ». Même nos mamans l'ont fait aussi.
J'ai hâte d'avoir la question.
C'est, de la... c'est littéralement de la pure merde. La première question, c'est il n'y a pas de mal à se faire du bien. Est-ce que tu te considères un peu comme un beauf ?
Pas trop.
Ok.
Non, franchement, je crois pas. Non, je cultive pas. Je pense pas cultiver un humour beauf. Non, je me considère pas comme un beauf.
Ok, puisque tu fais pas du tout. Enfin, qu'est-ce qu'on appelle un humour beauf pour toi ? C'est des références aux zizi, au caca et tout ça, quoi.
Ça, j'en fais, mais non, humour beauf, c'est plus un humour terroir, c'est plus les rêves Patrick Sébastien. Tranier, il fait un humour beauf hyper travaillé.
Oui.
C'est plus ça.
Lui, il fait une parodie d'humour beauf.
Ouais, il fait une parodie d'humour beauf, mais pour moi, c'est ce qui parodie dans ce cas qui... Voilà. Teddy, il essaye de se diriger vers un personnage un peu beauf sensible, etc. Donc, il y a un côté, un humour un peu beauf, mais... Quand il fait ses blagues sur j'écris pour Baba et tout, c'est un peu beauf, c'est drôle. Oui. Tu vois. Je sais pas.
Parce que c'est difficile à définir, mais tu vois, par exemple, si tu. Bon, on va pas dévoiler ce que tu fais sur scène pour ceux qui l'ont pas vu, et venez voir Babord d'ailleurs, notamment au random, évidemment.
Évidemment.
Mais tu fais des vannes sur le caca sur scène.
Ouais, j'ai une petite phase sur les poils de cul, ouais. Ouais, c'est peut-être un peu beauf. C'est peut-être un peu beauf.
Mais est-ce que pour toi, c'est péjoratif, beauf ?
Non. Ah, ouais. Ah non, mais en plus, il y a des trucs beaufs qui me font rire, tu vois. Mais Patrick Sébastien, ça me fait rire, alors que c'est ultra beauf. Mais
c'est pour ça que j'ai du mal à définir le beauf. Un peu ouais, comme le
moi aussi, en fait, là, tu me pièges, mais tu t'auto-pièges. Non, mais en tout cas, moi, je pense pas que mon humour soit beauf.
Okay.
Je dis pas qu'il est non plus élitiste, mais je suis pas sûr que ce soit la caractéristique. Okay. C'est plus un humour hyper fin et très très bien écrit, moi. C'est comme ça que je définis mon humour.
Et humble.
Et
ah oui, même nos mamans l'ont fait aussi. Bon, on l'a compris, normalement, c'est la réponse. Et oui, t'as un bon rapport avec ta mère.
On s'adore.
On s'adore.
On s'adore.
Elle te donne des conseils, elle est fière de toi, comment ça se passe ?
Je crois qu'elle est fière de moi, elle était longtemps inquiète parce que, tu vois, la sécurité de l'emploi, machin. Là, elle a compris que ça y est, j'arrivais à en vivre, mais elle a mis du temps. Elle a mis du temps. Mais ouais, non, je crois qu'elle est fière de moi et on s'entend très bien.
Vous vous appelez souvent ?
Oui, surtout maintenant qu'il y a le petit, je peux te dire
voilà.
je l'appelle régulièrement.
Okay.
Et elle vient le garder, donc c'est très cool.
Eh ben très bien. Et la dernière question, ce sera... Alors, je crois qu'on l'a compris, mais si c'est encore la même réponse...
Non, je vais changer, promis.
C'est un peu triste.
Les jeux vidéo. Non,
attends,
c'est ça.
Mais attends, justement, parce que c'est genre, il n'y a pas de mal à se faire du bien, même nos mamans l'ont fait aussi. Si tu prends un temps uniquement pour toi, par exemple, je te donne Babord, je te donne 24 heures et tu choisis l'activité que tu veux dans le monde. Qu'est-ce que tu fais ?
24 heures, qu'est-ce que je pourrais kiffer ?
Tu vas dans n'importe quelle ville, tu fais ce que tu veux.
Ouais, mais genre, je crois que je kifferais bien faire du ski, ça fait longtemps que j'en ai pas fait.
Ok.
Voilà, et avoir un temps dédié à ça, je trouverais ça cool parce que j'aime beaucoup faire le ski, mais j'ai la flemme d'y aller souvent.
Mais tu dois être bon en ski.
Je suis très fort en ski.
Oh.
Ouais, c'est le seul sport où je suis bon.
Bah, c'est bien déjà.
J'en ai jamais fait en compète, mais j'ai un bon niveau. J'ai grandi dans la montagne, j'ai eu cette chance. Donc, ouais, je suis fort en ski, ça me manque un peu. Sauf qu'en fait, ouais, voilà, ce serait faire du ski, mais avec des potes.
Ok.
Voilà.
Bon, c'est simple.
Ouais, c'est simple. Non, je t'aurais bien dit du jet ski. Non, je sais pas, c'est quoi qui... Ils ont répondu quoi, les autres, à cette question ?
Non, mais il y a personne qui a les mêmes questions, parce que c'est des différents différentes à chaque fois. Mais surtout, je pense que ce qui ressort de tout ce qu'on s'est dit, c'est quand même que t'es quand même quelqu'un de tranquille et de simple.
J'essaye.
Ben on dirait, non ? En vrai.
Ouais, non, mais je crois que oui, je suis tranquille. Je cherche pas la confrontation.
T'es serein.
Je suis serein.
T'es serein pour ton avenir.
Non, j'ai toujours des doutes pour la thune.
Ouais,
en fait, je remonte jamais. Mes potes, ils se foutent de moi. Ils disent ah, mais tout va bien et tout. Je suis d'accord, mais en fait, j'ai toujours cette peur de l'avenir, de pas réussir à faire ce que je veux. Et c'est toujours le problème quand tu dépends un peu de projets qu'on te propose. Je pèse pas encore assez pour vivre de mes trucs. C'est pour ça que aussi, j'aimerais bien écrire mon spectacle, parce que je me dis, bah, c'est peut-être par ce biais-là que je vais réussir à vivre un peu de ça, j'en sais rien. Mais...
Et si tu avais un message à donner au Babord qui était en train de nettoyer les aspirateurs industriels, du Babord de maintenant, tu lui dirais quoi ?
Je lui dirais, inscris-toi sur Twitter, mec, croisi, ça peut payer.
Ça peut payer, ok.
Ça peut payer.
Eh bah, très bien, merci mon vieux. Alors voilà ce qu'on va faire, tu connais peut-être le rituel de fin des podcasts.
Ah, je connais pas le rituel de fin.
Le rituel de fin, c'est qu'on va dire « vive » devant chaque mot, et on va dire les trucs qu'on a évoqués pendant le podcast. Tu vois ce que je veux dire ? Par exemple, je commence. Vive League of Legends.
Ok.
À toi. Un truc dont on a parlé dans le podcast.
Vive l'humilité.
Vive ta famille.
Vive le roi Bombeck.
Oui, le roi Bombeck.
Le roi Bombeck.
vive Twitter ou pas?
Vive Twitter, bien sûr.
Ah ouais.
Vive Twitter.
Et vive Thread.
Vive Thread. J'adore okay. Thread. Vive la créativité. Vive l'écriture.
Vive l'écriture. Vive pas vive la tequila, par contre.
Pas vive la tequila. Mort la tequila. Vive la famille. Vive les gens qui me font confiance et qui m'appellent pour écrire pour eux. Je leur suis reconnaissant.
Vive Starcraft.
Plus maintenant. Non, pas vive les jeux vidéo. Pas vive les jeux vidéo.
Pas vive les jeux vidéo, c'est fini.
Vive Guigui qui m'a appelé pour la première fois pour jouer sur scène. Je le redis. C'est... Sans toi, je me serais pas lancé.
Allez. Et vive la bouillasse.
La bouillasse. Ah ça. Ça. Multivive la bouillasse. Vive la bouillasse.
Le Saint-Agur dans la sauce tomate.
Et vive Camille et mon fils aussi.
Mais bien sûr, vive bien Camille sûr. Et ton fils. Vive vous trois. Et puis voilà.
Voilà.
On a fait le tour, en vrai, de cette vie riche. Et vive nettoyer les aspirateurs industriels.
Ah ça oui. Tout éclat, parquet, sol.
Ça s'appelait tout éclat, parquet, sol.
Tout éclat, parquet, sol, ouais.
Vive tout éclat, parquet, sol. Merci, Babor.
Merci, Guigui. À bientôt.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.